Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de ce podcast hebdomadaire qui vous fait le tour des news de la tech qu'il ne fallait pas rater et qui vous permettent d'être calé dans le domaine de la tech. Dans cette émission, on va vous parler des suites du précédent épisode, à savoir les soucis qui concernent principalement Huawei. On va parler aussi du Computex 2019, mais aussi de plein d'autres sujets, dont des sujets jeux vidéo. Et pour cet épisode, j'ai la joie de retrouver Guillaume Pogjas Pala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Ben ça va très bien, merci. Ben oui, ben bonjour à tous. Je suis très heureux de revenir.
Et bonjour à toi, et on est ravis de te retrouver également. Ben c'est bien parce que t'as pas eu l'occasion jusque-là de t'exprimer sur ce problème qui concerne Huawei. Tu vois, je pense que ça s'entend, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Autant j'ai intégré que Xiaomi, il fallait prononcer le X en ch, autant Huawei, j'ai du mal à prononcer le H comme le petit R qui va bien. Mais je vais y venir avec le temps, ne m'en voulez pas. Les incontournables avant qu'on attaque toutes ces news, c'est le fait que vous puissiez réagir à l'émission en commentaire sur techcafé.fr. Vous êtes quelques-uns à le faire régulièrement et n'hésitez pas à le faire parce que l'avantage, c'est que ça profite à tout le monde. C'est-à-dire quand les gens reviennent voir la fiche de l'émission, ils voient aussi les commentaires, les discussions qu'on a pu avoir. Un autre moyen de discuter entre vous et avec nous, c'est le groupe Telegram. Le lien est dans les notes de l'émission. Il suffit d'un clic pour accéder à ce groupe où vous êtes très nombreux à discuter. Et c'est évidemment très enrichissant. Et puis, je ne peux pas commencer cette émission sans vous rappeler une nouvelle fois que Tech Café est disponible sur la plateforme Patreon, qui est une plateforme de financement participatif. L'idée, elle est très très simple, c'est que vous allez sur cette page, vous prenez connaissance des quelques infos, et puis vous avez des niveaux de participation, et dès le premier niveau de participation, vous êtes engagé à nous soutenir avec des montants assez dérisoires pour chaque épisode, mais qui font des revenus qui sont conséquents pour nous, pour le travail qu'on effectue. Évidemment, ça compte énormément. Je pense qu'il y a toute une période où s'il n'y avait pas eu le financement participatif, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu des épisodes de Tech Café toutes les semaines, parce que avant qu'il y ait le financement participatif, je me rappelle du temps de Tablette Café. À l'époque, il y avait des podcasts où, bah, quand c'était un peu dur pour tout le monde, on se disait, bon, allez, on saute cet épisode, on verra la semaine prochaine. Et le fait qu'il y ait ce financement, je pense, c'est aussi quelque chose de très stimulant. Donc, merci, merci, merci beaucoup à vous. Sans autre forme de procès, on attaque. Donc, on revient sur cette affaire Huawei avec des compléments d'informations. Et puis, bah, surtout, tu vas pouvoir nous donner un petit peu ta vision et ton analyse. Alors, je vais donner en quelques mots, rapidement, quelques phrases, les dernières infos qui concernent cette affaire qu'on n'a pas relayées ensemble. C'est le fait que les conséquences des actes portés par les États-Unis ont amené à exclure Huawei de l'association qui gère le format SD, donc des cartes SD, hein, vous connaissez bien, qui les écarte aussi de la Wi-Fi Alliance, donc en gros ça les écarte de l'association qui gère justement le protocole de réseau sans fil Wi-Fi. Il y a aussi des conséquences assez notables et qui sont peut-être bien plus importante encore que ce qu'on avait décrit dans le précédent épisode, donc pire que Android, qui risque de ne plus être disponible dans sa version Google, comme on l'avait expliqué, c'est le fait que ARM les lâche aussi, donc les puces ARM avec l'architecture ARM qui va refuser de fonctionner encore une fois avec Huawei. Donc on va voir aussi ce qui se passe au niveau des processeurs, on va en reparler ensemble, parce que là on touche directement à ton cœur de métier, Guillaume. Mais il y a aussi d'autres acteurs partenaires des États-Unis qui sont pas directement des boîtes américaines qui coupent les ponts. Il y a Panasonic, Toshiba notamment, et du coup on voit un petit peu le rideau de fer qui tombe autour de Huawei, et un petit peu cette mise à côté. C'est un petit peu le méchant, le vilain petit canard qu'on pointe du doigt pour toutes les sociétés qui ne sont pas chinoises. Alors Guillaume, déjà peut-être quelques retours toi de ton impression de toute cette affaire, de tous ces problèmes, et puis quelques détails sur lesquels tu souhaites revenir sur ces quelques grandes annonces que je viens de lister un peu rapidement.
Oui, bah vous en avez déjà beaucoup parlé la semaine dernière, évidemment, ça sera la saga de l'été, probablement, hein, puisque voilà, c'est Huawei, Huawei versus Trump, là. Ben, ça remplace avantageusement le trône de fer, en fait, hein, qui s'est fini d'une manière... On va pas en parler maintenant, parce que c'est quand même d'une ampleur comparable au trône de fer pour moi, parce que c'est quand même un véritable blocus que subit Huawei, hein, ça se place dans un contexte qui est d'une ampleur géostratégique. Et bon, enfin, on rappelle, si c'est nécessaire, que la situation actuelle n'est pas inédite par sa nature. Elle a déjà, les ZTE, par exemple, l'a déjà subi. Mais par son échelle, quoi, hein, tout simplement. C'est, Donc le gouvernement a mis en place une liste noire d'entreprises chinoises qui représenterait un risque pour la sécurité intérieure, d'après eux. Bon, cette liste contient déjà Huawei, comme tu dis, contient aussi Digi, et 5 boîtes de vidéosurveillance, Hikvision, Vision, mais il y a Megvi, Dahua et iFlytek, je crois. Et bon, rien n'indique qu'elle s'arrêtera là. Donc, évidemment, Huawei, c'est de loin la plus grosse boîte, hein, deuxième vendeur de téléphones au monde, on le rappelle. Aucune entreprise américaine n'est plus autorisée à avoir d'interaction avec elle, et c'est comme tu l'as dit, depuis la semaine dernière, Huawei s'est fait virer, ou disons, s'est retiré d'une manière plus élégante de plusieurs associations, dont la SD Association. Bon, la SD Association, évidemment, ça fabrique les standards pour les cartes SD et micro-SD, donc ça signifie qu'il sera plus difficile pour elle d'obtenir le droit d'utiliser la SD. Bon, c'est pas impossible, hein, il faut passer par des intermédiaires, en gros, qui, eux, auraient les licences. Mais bon,
c'est moins bloquant. C'est peut-être le moins bloquant.
D'autant qu'ils ont développé leur propre format de carte mémoire propriétaire, donc à l'extrême limite, ça c'est pas si bloquant que ça. Dans le même état d'esprit, il a été suspendu de la Wi-Fi Alliance et du JEDEC. Donc le JEDEC, c'est le Joint Electronic Device Engineering Council. Et donc ça regroupe 300 des plus grosses boîtes. Hein. C'est un organisme qui est chargé de la normalisation en électronique. Donc en résumé, Huawei n'a plus voix au chapitre dans le monde de la tech. Voilà. Malgré sa prévalence, qui est quand même énorme, Huawei ne pourra plus participer à l'élaboration des futurs standards aux côtés de tous les autres acteurs majeurs, quoi, tout simplement. Et évidemment, comme tu l'as dit, last but not least, hein, en plus de Google, Qualcomm, Intel, Broadcom et compagnie, c'est au tour de Panasonic et Arm, qui sont tous les deux des entreprises japonaises désormais, hein, de cesser toute activité avec Huawei, et là ça fait vraiment très 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 mal. Donc après, le Japon a des liens stratégiques indéfectibles avec les États-Unis, hein, sur lesquels ils comptent pour leur défense contre la Chine et la Corée du Nord, donc c'est pas très surprenant que les Japonais ne veuillent pas froisser l'oncle Trump, on va dire. Bon, on s'est beaucoup inquiété de ce que pourrait devenir Huawei sans Google, alors que finalement, c'est presque un problème mineur en comparaison, puisque depuis des années, Huawei travaille à un système alternatif. Hein. Une rumeur veut d'ailleurs qu'il soit déployable dès l'automne en 2020, dès l'automne ou même en 2020, on ne sait pas trop.
Ouais, dès l'automne 2019 ou 2020,
exactement.
On sait pas.
Et il aurait le nom d'ArcOS, parce qu'il y avait Hongmeng, mais évidemment, c'est pas un nom qui passe très très bien à l'Occident, donc ArcOS, ça a été déposé apparemment, et bon, il est possible que ce soit l'alternative, donc l'OS, basé sur Android, mais maison de Huawei.
Alors, ça a été déposé tout récemment, hein,
oui,
d'ailleurs.
Oui, c'est très très récent, c'est pas officiel non plus comme news, hein, c'est juste, il y a des indices qui pointent là-dessus fortement. Bon, faire un OS alternatif à l'Android ou Google, c'est possible. Hein. Se substituer au service de Google, c'est possible aussi, même si c'est difficile. Ça demande beaucoup de moyens, mais bon, Amazon l'a tenté. Il y a eux aussi, dont on avait parlé. Donc eux, c'est une distribution alternative d'Android que d'ailleurs...
Ouais, qui s'écrit slash E slash, quoi.
Exactement, E avec les deux petits bras comme ça en l'air. Ouais. Alors si les Chinois décident de développer des infrastructures de service pour ArcOS, je pense qu'ils pourraient le faire, tout simplement, quoi. Enfin, tout simplement, ce sera possible. En tous les cas, on sait que Huawei fabrique aussi ses propres puces, hein, les Kirin. Il est fait fondre par TSMC, qui est taïwanais et qui l'a pas encore lâché. Par contre, ces puces, elles utilisent des cœurs ARM. Elles utilisent Lisa ARM, c'est-à-dire le langage ARM, le langage machine de ARM. Et ils utilisent aussi les designs Cortex et Mali pour les CPU et les GPU. Donc, et là, le problème, c'est qu'ils viennent d'en perdre l'accès. Donc, c'est très très compliqué. Pour le moment, Huawei a fait des réserves de composants, en prévision du problème, hein, mais quand ils seront au bout du stock, ils vont devoir utiliser d'autres types de puces si ça continue, si ce blocus continue. Et ça, c'est vraiment extrêmement embêtant. Alors, c'est pas non plus impossible. Hein. Les Chinois ont leur propre CPU, c'est des CPU MIPS. C'est des CPU propriétaires qu'ils utilisent d'ailleurs dans certains de leurs super ordinateurs. Mais bon, ils sont incompatibles avec ARM, déjà. C'est-à-dire avec le reste du monde, globalement. Et créer des puces totalement chinoises et qui soient compétitives avec les Snapdragon, les Exynos et tout le monde... Et ça se fait pas en 3 mois, quoi. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus difficile. Donc, c'est un énorme handicap. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Hein. D'ailleurs, si on réfléchit à l'autonomie totale, est-ce qu'une autonomie totale de Huawei est possible? En l'occurrence. Alors, évidemment, hein, presque tous les smartphones se fournissent chez des dizaines et des dizaines d'entreprises. Hein. Bon, par exemple, il y a Corning pour la vitre avant, Micron pour le stockage.
Les fameux Gorilla Glass, hein, Corning.
Exactement. Il y a Qualcomm pour le modem, au minimum. ARM pour le design, donc, des puces. Mais il y a aussi Skyworks, Corvo pour la 3G. Évidemment, il y a Google, puis il y a Samsung ou LG pour l'écran, il y a SK Hynix pour la RAM, etc. Donc, c'est vrai qu'il existe des remplacements chinois pour certains, et il faut pas oublier que la Corée du Sud aussi a des liens stratégiques très très forts avec les États-Unis pour la même raison, hein, oui. Donc Corée du Nord. Donc, si suivent les pas des Japonais, c'est fini. Si Samsung ferme les ventes des écrans, si Hynix fournit plus de RAM, bon, ben c'est fini, quoi. C'est absolument tout faire en Chine, ça va représenter un énorme challenge. Mais pourtant, si ça continue, bah, c'est peut-être ce qui arrivera. Bon, c'est Trump l'a dit, hein. Huawei est dangereux. C'est Trump qui le dit, donc hein, il le dit, mais bon, il y a quand même un problème de base, c'est qu'aucun élément probant n'est apporté pour justifier l'embargo contre lui, quoi. Il est traité comme un état ennemi, comme l'Iran, en gros, il est traité. Dans un salon agricole, Trump a dit explicitement deux choses qui sont parfaitement contradictoires. Je cite, hein, « D'un point de vue de la sécurité, d'un point de vue militaire, Huawei est très dangereux. » Et plus loin, « Il est possible que Huawei soit inclus dans un accord commercial, ça serait bon pour nous. » Donc, voilà, c'est une menace stratégique, c'est un problème de sécurité intérieure, et on peut le régler avec un accord commercial. Pourquoi ? C'est-à-dire, s'ils promettent de ne pas espionner sur le contrat, je ne comprends pas bien. Donc, évidemment, ça fait apparaître la solution actuelle comme une sorte de bluff. D'ailleurs, le sursis de 3 mois conforte cette impression. Hein. Et en plus, on peut imaginer qu'il y ait... Puis en plus, voilà, quoi. Si on peut imaginer qu'il y ait des inquiétudes sur la 5G, les infrastructures 5G, on voit mal comment les téléphones Huawei, qui de toute façon ne se vendent pas sur le sol américain, pourraient poser problème. Ou comment le fait que Corning, qui vend des vitres blindées aux Chinois, pourrait mettre en péril la sécurité nationale. Bon, donc c'est compliqué tout ça. Alors pour autant, il y a deux solutions. Soit c'est effectivement un bluff pour arracher un accord favorable, soit c'est une mesure prévue pour durer, afin d'affaiblir la Chine et de la handicaper pour dans la course à l'innovation que les Américains ont peur de perdre, tout simplement. Hein. C'est de la 5G, entre autres. Il faut savoir que les ambitions chinoises, ben, c'est pas un mystère, hein. Ils veulent dominer tout. La tech, l'IA, la 5G, la robotique, les superordinateurs, tous les domaines. Ils veulent être les leaders du monde à l'horizon 2050. Ils vont mettre 1000 milliards de dollars d'investissement dans la balance. Hein. Ils ont un plan qui s'appelle Made in China 2025, qui vise à la superpuissance économique en 2025, donc, comme son nom l'indique. Hein. Et d'ailleurs, ce plan a beaucoup énervé Trump. On soupçonne d'ailleurs que ce soit la racine du mal. D'ailleurs, les Chinois n'utilisent plus trop le Made in China, le titre Made in China 2025. Parce que voilà, c'est un petit peu trop violent, on va dire, pour les autres puissances. Donc bon.
Il y a deux choses là au passage sur les éléments que tu décris. Moi qui me sur lesquels je voulais réagir un petit peu et avoir peut-être éventuellement ton retour, mais il y a deux choses qui m'interpellent. La première chose, c'est que finalement, quand tu regardes les conséquences de ces décisions du côté des Américains sur Huawei, c'est finalement des conséquences qui touche beaucoup plus, à mon sens, ou alors c'est parce que ça nous intéresse plus, mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus les équipements de type smartphone pour les particuliers, et d'ailleurs, comme tu le dis, des choses qui se vendent pas beaucoup aux États-Unis, qui se vendent peut-être beaucoup plus en Europe, en revanche. Ça, c'est une première conséquence, c'est qu'en gros, il y a des conséquences plus sur les appareils quotidiens des particuliers, plus que sur les gros équipements qui sont, a priori, pointés du doigt pour des problèmes de sécurité. Et puis, sur le fond de la réflexion, c'est-à-dire, on va se dire quelles sont les solutions que Huawei ou même la Chine pourrait proposer, parce que avant que soit annoncée cette décision et cet ajout dans la liste là, la liste noire, il y a Huawei qui avait pris la main en proposant un accord de non-espionnage, mais qui a été balayé d'un revers de la main par les États-Unis parce qu'il était purement et simplement ignoré et on a vu les conséquences. Je me demande même qu'est-ce que pourrait faire ou dire Huawei maintenant pour rassurer au moins en façade les États-Unis, quoi. Ce problème de sécurité est vraiment un argument quand on le regarde là en tant que observateur extérieur et sans doute un peu éloigné. On se dit ça tient pas longtemps la route, quoi.
Non, bah justement, à moins qu'il y ait un autre grand secret qu'on connaisse pas, évidemment, les téléphones Huawei, ils posent pas réellement de problème de sécurité aux États-Unis en l'état, quoi. Ouais. Donc les États-Unis agissent probablement sur une base assez fallacieuse, c'est diplomatiquement calamiteux. Le truc, c'est que économiquement, c'est compliqué. Huawei travaille avec un nombre colossal d'autres firmes dans le monde entier, et les victimes collatérales se comptent par dizaines et dizaines, hein, et aux États-Unis en premier lieu. Parce que bah voilà, tout le monde, et Google en premier, perd un énorme client. À court terme, si tu veux, il n'est pas impossible que ça soit positif pour les États-Unis, parce que il pourrait effectivement avoir la main pour négocier je ne sais quel traité très favorable, qui leur est très favorable, ou même essayer de faire changer la loi chinoise, puisque c'était quelque chose qu'ils voulaient faire à un moment. Ils voulaient inscrire dans la loi chinoise, en gros, le respect de la propriété intellectuelle. Ce qui n'est pas quelque chose de très très clair en Chine, apparemment. Bon, donc, ça évidemment les Chinois ne veulent pas, ils ne veulent pas d'ingérence, c'est peut-être une manière de les forcer à les faire respecter ce qui est, disons, en théorie, respecté dans les autres pays de l'OMC. Bon. Est-ce que c'est ça ou pas? Je sais pas. À court terme, si tu veux, il est pas impossible que ce soit quelque chose de bon aussi électoralement pour Trump, puisqu'il apparaît comme l'homme fort et qu'il est en position de force par rapport à Huawei, et donc plus ou moins par extension à la Chine, et que du coup, ça pourrait rassurer son électorat de 2020, qui est évidemment très friand de constater la suprématie américaine par rapport aux Chinois. Donc tout ça, c'est positif à court terme, on va dire, mais bon, évidemment, à long terme, c'est beaucoup plus dangereux, parce que la confiance, non seulement des prestataires chinois, mais de tout le reste du monde, en fait, va être fragilisée. Donc même si le 19 août, tout rentre finalement dans l'ordre, à divers niveaux, tout ce bordel va encourager un mouvement de démondialisation. En ce moment, la notion de chaîne d'approvisionnement globale, c'est la norme, c'est un acquis depuis des décennies. Mais ça pourrait pas continuer longtemps. À l'extrême, il pourrait y avoir un monde tech bipolaire, chinois, non chinois. Les principales puissances vont tout faire pour devenir le plus autosuffisantes possible, quitte à créer leurs propres normes. Parce que par exemple, Huawei est rejeté par le JEDEC, par la Wi-Fi Alliance. Bah écoute, pourquoi la Chine ne ferait pas ses propres normes? ARM leur parle plus, ni Intel. Bah la Chine ferait ses propres puces, incompatibles. Voilà, donc les grandes puissances pourraient créer des zones d'influence basées non plus sur la géographie, mais sur la technologie. La norme GSM était universelle, la 4G elle n'était pas. Rien n'indique que ton smartphone 5G fonctionnera partout dans le monde. Il y a une forme de balkanisation de la tech qui a déjà commencé et qui risque de s'accélérer avec ce type de truc, quoi, avec ce type d'action.
Ce qui est dingue d'ailleurs par certains aspects, alors il faut faire attention à pas partir trop loin dans des suppositions trop éthérées, mais quand on voit ce constat-là et quand on constate une orientation où effectivement il pourrait y avoir une forme de balkanisation de la tech, autant avant on parlait de la mondialisation comme étant un élément d'agression vis-à-vis de la planète et sur le plan écologique, j'ai peine à penser qu'une balkanisation de la tech soit forcément beaucoup plus favorable. Bien au contraire, on se rend compte avec le recul que c'est tout simplement les usages de la tech qui peuvent avoir des conséquences si jamais elles sont pas réfléchies sur le plan écologique, mais le fait de multiplier les normes, alors multiplier est un grand mot, hein, pour l'instant on parle de la Chine et du reste du monde, mais on pourrait très bien imaginer d'autres pays immenses et très puissants qui s'orienteraient vers des mêmes décisions. Je pense évidemment à la Russie, mais il y en a plein d'autres. Avec plus ou moins de succès, évidemment, mais surtout peut-être avec des conséquences assez fâcheuses sur le plan écologique.
Il y a plein de pays émergents qui n'auront pas les moyens, ne pourront pas faire autrement que de prendre le moins cher. Et le moins cher, si c'est la Chine, ils seront sous influence chinoise, avec des normes chinoises. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner, c'est-à-dire les États-Unis tout pourraient offrir des trucs à leurs alliés, mais il y a des pays qui pourraient juste choisir l'autre camp, comme la Russie, pourquoi pas éventuellement, mais aussi les pays d'autres pays asiatiques parce que il faut pas oublier que les États-Unis demandent de pas utiliser la 5G Huawei, sauf que les autres alternatives, elles sont moins performantes et plus chères, et que ça ça peut aussi peser beaucoup dans la balance quand même.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Du coup, alors un élément auquel on peut aussi s'attarder un petit peu, c'est les réactions du côté de la Chine et la contre-attaque. Là, il y a des retours à plusieurs niveaux. Il y a de la communication. Je dois dire même que sur certains aspects, les retours de Huawei sur cette histoire-là sont plutôt positif en termes de com, je trouve. C'est-à-dire que il parle systématiquement, je sais pas si tu l'as remarqué, si tu partages mon avis, mais assez souvent de partenariats. Ils disent qu'ils continuent à travailler. Est-ce qu'on peut vraiment faire autrement à leur place? Je suis pas sûr, mais malgré tout, il faut souligner que c'est plutôt bienvenu, je trouve, de leur part. À l'échelle de l'image à l'international, on ne peut que être
assez séduit, je trouve, par les prises de communication de Huawei, notamment d'ailleurs à l'égard d'Apple, qui subit a priori pas mal son image par la vente des iPhones, notamment en Chine. Hein. On sait que c'est un gros marché pour eux là-bas, et il y aurait un mouvement de boycott qui s'orienterait à l'égard de ces produits, auquel Huawei n'est pas favorable forcément, explicitement, et je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas jouer la surenchère. Alors, c'est quoi les dernières réactions auxquelles on peut s'attarder, Guillaume, de la part de la Chine?
Bah, tu l'as mentionné déjà, Huawei attaque en justice, hein, tout simplement, puisqu'elle considère que la directive américaine là, donc, était anticonstitutionnelle aux États-Unis. Je veux dire, c'est quelque chose qui est normalement illégal, et donc elle attaque, elle fait un procès, quoi, globalement, à l'État américain, finalement, plus ou moins. Après, bon, c'est pas exactement pour l'instant, les Américains semblent avoir le dessus, hein, les taux s'est vraiment resserré sur Huawei ces derniers jours, il a de moins en moins de marge de manœuvre. Donc comme tu dis, il joue l'apaisement, je pense que c'est effectivement plutôt mieux. Hein. D'ailleurs, la Chine peut-elle contre-attaquer? Outre le fait que les entreprises américaines ont déjà perdu des gros clients, que probablement ils perdent déjà beaucoup d'argent, la Chine pourrait décider de dégager Apple, effectivement. C'est un truc auquel on pense en premier, puisque bon, autant pour les ventes, alors pour ce qui est des ventes d'iPhone, de toute façon, elles vont baisser en Chine, parce que il y a en Chine un sentiment nationaliste, à mon avis, qui est assez fort, et acheter américain, je pense que ça va devenir moins à la mode, moins tendance peut-être dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez naturel. Je dirais que c'est difficile de lutter contre. Après, est-ce que il y a de faibles chances, après, sauf s'il y a vraiment une escalade. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'indice sur le fait que la Chine arrête de construire des iPhones, quoi. C'est-à-dire que Foxconn arrête de travailler avec Apple. Ça ferait évidemment très très mal à Apple et son action, ou ça ferait très mal aux bourses américaines, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, par la même occasion. D'ailleurs, tu l'as dit, hein, le président ne le souhaite pas. Bon, il y en a qui pensent aussi...
Le président de Huawei,
tout à fait, oui, ne le souhaite pas. Bon, voilà, il y a aussi eu des rumeurs comme quoi il y a une contre-attaque qui pourrait venir des terres rares, puisque c'est une spécialité chinoise. Alors en fait, pas vraiment. C'est-à-dire, les terres rares sont parfois désignées comme les vitamines de la tech, hein, tu sais, c'est... Sans elle, la tech, elle est comme vous. Elle va moins vite, t'as l'air plus vieux, t'as l'air plus fatigué.
C'est beau.
Mais oui, c'est ça.
Enfin, c'est beau. Non, c'est triste, mais l'analogie est belle.
Et donc, la Chine fournit environ 80% des terres rares du monde utilisées dans tous les secteurs de tout le monde, globalement. Et bon, le truc, c'est qu'il faut savoir que les terres rares ne sont pas si rares que ça. Il y en a partout, hein. Pas particulièrement en Chine. Sauf qu'il faut les extraire et les raffiner. En fait, il faut les raser. Les extraire, c'est assez facile. Il faut les raffiner, par contre. Et les raffiner, c'est coûteux, c'est polluant. Et jusqu'ici, on était très contents que les Chinois industrialisent massivement le secteur avec des prix attractifs et qu'en plus, ils supportent les prix environnementaux, tu vois, les coûts environnementaux en prime. Donc, à court terme, ben, si les Chinois ferment le robinet à terre rare, ça va faire mal, mais ce sera pas apocalyptique. C'est déjà arrivé, en fait, hein, lors d'une bisbille entre la Chine et le Japon, hein, à propos des îles Senkaku. Tu les connais, hein, la Chine et le Japon, ces deux-là, c'est des grands enfants quand il s'agit de marquer leur territoire. Bref, ça n'a pas été la catastrophe. Déjà, ça a donné de l'essor à un autre business, la contrebande, et puis la production mondiale a augmenté pour compenser. Alors, s'il se passe la même chose pour le monde entier, évidemment, ça serait plus dur, vu l'échelle, mais dans un premier temps, évidemment, il y a des stocks de réserves un petit peu partout qui pourraient encaisser pendant des mois les besoins les plus immédiats. Évidemment, les prix vont monter, mais du coup, des usines réouvriraient, comme aux États-Unis par exemple, où il en reste encore qui sont intactes, hein, et qui avaient fermé parce qu'elles étaient plus rentables. Et ben, ils pourraient s'en reconstruire, motivés justement par la hausse générale des prix. D'ailleurs, le secteur se réveille déjà en prévision, au cas où, on va dire, en Australie et aux États-Unis. Donc voilà, le monde peut s'adapter, ça serait pas complètement indolore, mais ça serait pas non plus un Armageddon, quoi. Donc voilà, c'est bon. En attendant, quelles sera sur le court terme les conséquences sur Huawei, c'est difficile à dire, hein. Les prévisions des experts varient entre 4 et 24%, donc en fait ils savent pas du tout, mais bon, c'est quand même un chiffre vraiment important, quoi, probablement. Donc c'est de vente en moins à l'échelle de globale, hein. C'est d'après Strategy Analytics.
Évidemment.
Parce que Huawei fait 30% de ses ventes en Europe. C'est même là qu'elles vendent le plus de flagships, c'est chez nous. Donc voilà. Et en Angleterre, d'ailleurs, c'est déjà la Bérésina. A priori, les ventes des sites de revente en ligne voient arriver significativement plus de Huawei et les prix baissent drastiquement. Voilà. Donc, en France, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a Frandroid qui a fait un sondage. Je sais pas si tu as vu. C'est assez intéressant.
J'ai pas vu les résultats. J'ai vu le sondage. J'ai pas vu les résultats.
Pour savoir ce que les Français pensent un petit peu de cette affaire, quoi, globalement. Donc, il y avait un certain nombre de questions. Alors voilà. En gros, ça n'a pas changé des masses la perception de Honor et de Huawei chez les Français.
Chez les lecteurs de
Frandroid. Chez les lecteurs, alors attention, bien entendu, ce sont les lecteurs de Frandroid. Bon. Pas non plus.
Ils sont quand même un peu plus avertis sur les smartphones Android.
On peut pas considérer que c'est un échantillon représentatif de la population française, tout à fait. Mais bon, voilà, ils pensent, eux, en majorité, ils pensent que c'est un chantage commercial, en fait, envers la Chine. Ouais. Globalement, c'est là, une grande majorité pense que cette affaire va bien se terminer, ils vont pas revendre leur téléphone, et voilà, ils sont pas particulièrement inquiets, ils sont, disons, à 60% pas inquiets, et voilà, même si, évidemment, ils auraient peur d'un peu plus avoir des mises à jour majeures d'Android sur leur téléphone, ils conseilleraient pas, donc, de revendre leur téléphone, et ils pensent que tout cela aura une issue heureuse. On verra bien. Est-ce qu'elle aura une fin plus heureuse que le trône de fer? Je ne sais pas.
Ça t'a marqué. Mais sur la partie assemblage des iPhones, alors qu'on peut pas d'ailleurs résumer à simplement à effet par Foxconn. Enfin, si l'assemblage est fait par Foxconn, mais je reprends. Il y avait quand même des positions de la part de Donald Trump assez rapidement d'ailleurs depuis qu'il est arrivé au pouvoir qui voulait aller dans le sens d'un assemblage de l'iPhone, une fabrication made in USA. Alors on en avait déjà parlé et c'est difficilement réaliste et à court terme. Maintenant, on le voit dans ces grands enjeux stratégiques de ces grandes entreprises, ils ont plusieurs scénarios de planifier et il prévoit évidemment, je pense, le pire, le ratio du pire et du plus probable, ce qui est sans doute assez difficile à arbitrer. Mais je pense que quand on voit l'escalade et la vitesse à laquelle les choses peuvent basculer, est-ce que tu penses qu'un Apple, par exemple, ou même un Google pour ses produits matériels, pourrait être tenté d'envisager maintenant la fabrication de matériel aux États-Unis? Il y a des choses qui sont fabriquées aux États-Unis, mais est-ce que ça fait partie des scénarios plausibles?
Oui.
Pour toi,
oui, parce que je pense que globalement, la Chine, elle, c'est des gens qui raisonnent à long terme. La suprématie économique et tout le reste, c'est pas quelque chose qu'ils vont abandonner. C'est quelque chose qu'ils ont planifié ça depuis très longtemps. Ils ont des plans sur 50 ans. C'est des gens qui font ça. Enfin voilà, qui font ça depuis longtemps. À mon avis, ça va pas. Je sais pas s'il va y avoir une escalade au niveau de Huawei, disons. À ce niveau-là, tu vois. Mais clairement, il y a les tensions sur la 5G, il y aura des tensions sur d'autres trucs dans l'avenir, c'est assez probable, il est très vraisemblable que, comme je disais tout à l'heure, on assiste au début d'une sorte de renationalisation des chaînes de production. Je pense que cet épisode va donner l'impulsion à ce genre de phénomène un petit peu partout. Partout où ce sera possible, où les gens auront les moyens ou l'intelligence de le faire, de se protéger un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est... Bon, on verra.
Et t'imagines s'il y arrive Donald Trump finalement à stimuler ça un peu par la force, mais du coup il réussit quand même son pari auquel on pouvait difficilement croire dans un premier temps. Bon, écoute, on va laisser, sauf si t'as des dernières choses incontournables à préciser.
C'est juste que je veux dire, d'à tout ce que j'ai dit, on peut peut-être imaginer que je suis du côté de la Chine et que je trouve que les États-Unis se comportent mal. Ce qui est pas totalement faux, ils se comportent d'une manière qui est quand même assez brutale et pas de manière justifiée. Enfin, tu vois, c'est un peu voilà. Mais faut pas oublier que la Chine n'est pas toute blanche non plus, évidemment. Il n'y a pas un gentil, un méchant. De toute façon, tout le monde espionne et tous les pays ont leur propre. Bon, la Chine, c'est pas une démocratie au sens où nous on l'entend quand même. La Chine, c'est un pays qui a ses particularités et c'est un pays qui est extrêmement puissant et il faut pas être naïf non plus. Donc Trump s'y prend d'une manière qui lui est très particulière, qui lui est vraiment spécifique, qui est critiquable. Après, faut pas croire non plus, c'est le fait que la Chine veuille l'hégémonie, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre à la légère non plus, tu vois, pour tout un tas de raisons. Donc c'est pour ça que c'est une affaire qui déborde totalement le champ de la tech, évidemment, c'est un truc qui politise totalement la tech et c'est politique, c'est stratégique, c'est militaire, c'est quelque chose et qui est pour ça que c'est probablement la news de l'année. C'est un truc qui est, il y aura un avant et un après, je pense.
Ouais, ça va être la chronique. J'ai eu la chance d'être invité dans le rendez-vous tech de Patrick Béja et effectivement, en couvrant cette affaire, il rappelait aussi les origines un peu historiques qui sont arrivées qu'on a pu lire dans pas mal d'articles, mais probablement même qu'on peut considérer qu'il y a à moyen et long terme, c'est la Chine qui a dégainé les premiers. Et effectivement, bon, c'est difficile de toute façon de prendre parti. Je crois pas qu'on ait vraiment la vocation de prendre parti pour un côté ou pour l'autre. On est vraiment en tant qu'observateur dans ce sujet de toute manière. Allez, on met de côté ce sujet pour l'instant, puisqu'il va revenir au grand galop dans les futurs épisodes, c'est clair, avec le Computex 2019, qui est un salon, alors qu'on relaie maintenant, je crois, tous les ans, un peu, hein, dans Tech Café, Guillaume, à chaque fois, on a droit à notre petite section, où il y a quand même, il faut le dire, beaucoup plus d'annonces matérielles, et sur notamment les composants pour la tech, et donc c'est évidemment hyper intéressant de se plonger dedans. Juste un... En intro, en amuse-bouche du Computex, je voulais rebondir sur la news que j'ai vu passer là tout à l'heure de Frandroid, qui relaie une annonce de Microsoft qui me paraissait assez étonnante. La firme a annoncé un nouveau système d'exploitation, mais l'a dévoilé sans trop en dire. Le système d'exploitation, en tout cas son nom pour l'instant qu'il identifie, c'est Modern OS, donc l'OS moderne, et qui a, écoute, il coche toutes les cases de l'OS parfait. Une versatilité selon les formats d'appareils, donc en gros, il fonctionne partout. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, il prend en compte tous les formats et quels que soient les designs de l'appareil. Il est contrôlable à la voix, au toucher, au regard, évidemment, avec le souris et le bon vieux clavier. Il est axé, bon, au-delà du buzzword, intelligence artificielle pour prévoir un peu les activités des utilisateurs, une performance optimisée, toujours connecté, donc en Wi-Fi et 5G non-stop. Évidemment, accès sécurité et révolution des mises à jour en tâche de fond. Donc, il suffit de laisser tourner Modern OS en fond de tâche. Alors, il y a plein de questions qu'on peut se poser là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cet OS? Est-ce que c'est un nouvel OS ou est-ce que c'est tout simplement une future version majeure de Windows 10 qui pourrait arriver? Est-ce que c'est pas les vœux pieux de tous les OS, mais qui me semble peut-être aussi difficile d'arriver à packager et de vendre tout ça rapidement de manière satisfaisante pour l'utilisateur? Et puis, bah, c'est assez curieux, tout simplement, la manière dont c'est annoncé comme ça au Computex de manière assez partielle. Avec ce billet de blog qui détaille un petit peu ces éléments. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Guillaume?
Alors, j'ai l'impression qu'il parle quand même d'un système qui est qui est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est pas juste un Windows Lite ou c'est un Windows 10S, parce qu'ils ont déjà eu des velléités d'alléger Windows pour le rendre un petit peu plus réactif. Et bon. Là, on a l'impression.
C'est un peu leur fuchsia, alors.
Ouais, on a l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu plus, où il y a une rupture un petit peu plus grande. Ils font des essais depuis très longtemps sur des nouveaux noyaux. C'est pas quelque chose d'assez vraiment nouveau, parce que ça fait des années et des années, hein, qu'il y a des chercheurs, des programmeurs qui étudient des nouveaux modèle de système d'exploitation. Pour l'instant, on n'en a jamais vu la couleur. Bon, est-ce que ce sera juste... est-ce que sous le capot Windows 10 va pas mal changer dans les années à venir, ou est-ce que ce sera une nouvelle OS, une nouvelle marque? Honnêtement, je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu vraiment plus d'informations que ce que tu as dit, quoi, donc c'est difficile pour l'instant d'en parler.
Ouais, c'est pas très concret, c'est plus de l'intention et des promesses, mais bon, sans doute, hein, qu'ils bossent sur toutes ces évolutions. Alors, restons peut-être dans le concret avec toutes les news que tu as pu glaner autour du Computex et tout ce qui t'a marqué. Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous relayer de marquant du Computex 2019?
Bah, déjà, comme tous les ans, il y a des portables déliants, des gros ordinateurs portables complètement déliants.
Oui,
et alors, je sais pas si tu as un MacBook, tu as la chance d'avoir un MacBook avec une Touch Bar.
Oui, j'ai une touch bar, effectivement. Oui.
Donc c'est ce petit écran, en fait c'est un petit écran OLED tactile, hein, tout simplement, qu'il y a au-dessus du clavier. Bon, si tu aimes ta touch bar, je pense que tu vas être content d'être dans ce Computec, parce qu'en fait c'est le Computec de la super grosse touch bar géante, qui en fait devient une sorte d'écran secondaire. Donc c'est un prototype, là, c'est un vrai produit. Donc Intel a présenté Honeycomb Glacier, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est un laptop gaming. Alors évidemment, ils disent que c'est un laptop gaming juste parce qu'il est tellement énorme que ça peut pas passer pour un ultrabook. Tu as vu sur les photos, sur les vidéos,
oui,
c'est
oui.
Un ordinateur qui, donc, dont l'écran se déplie. Bon, alors évidemment, au début, c'est un truc assez standard, hein. L'écran se déplie, mais vous pouvez le déplier une deuxième fois, et donc vous dépliez un premier écran, et ensuite il y a une autre charnière, et quand vous le dépliez, il y a un autre écran, encore un autre écran, qui est beaucoup plus, enfin, qui est très large, mais assez étroit. Donc, c'est un écran secondaire qui peut vous afficher un petit peu ce que vous voulez, qui est quand même assez, enfin, qui est de très bonne qualité aussi. Et donc, sur lequel, qui est dans le prolongement, en fait, de l'écran, voilà, qui est au-dessous, et qui est donc dans le prolongement de cette, de l'écran principal. Bon, c'est un prototype, c'est un truc qui est assez gros, il y a, voilà, le touchpad est à la place du, donc il y a un gros clavier, et le touchpad est à la place du pavé numérique. Bon, évidemment, c'est un très gros ordinateur, très très puissant, avec d'ailleurs un design qui le permet de le refroidir pas mal. Et ce qui est rigolo, c'est que
d'où
c'est
le glacier.
Peut-être que c'est pour ça, ouais, d'ailleurs, c'est tout à fait probable. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est un prototype. C'est une exploration, donc c'est exploratoire. Cela dit, chez Asus, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont allés, ils y sont allés franco, et puis finalement, ils l'ont fait pour de vrai. C'est un vrai produit. C'est décadent. Voilà, j'appelle ça moi décadent. C'est, c'est un portable décadent, ni plus ni moins. Alors,
c'est jaloux.
Mais totalement. Je suis totalement jaloux parce que c'est donc alors évidemment c'est encore un portable assez gros, c'est le ZenBook Pro Duo. Alors pourquoi Duo? Bah parce qu'il a lui aussi deux écrans. Et alors donc d'habitude vous avez donc un écran donc l'écran principal du PC et puis vous avez donc le clavier et après vous avez le repose-poignet. Bon. Là le clavier est décalé sur le repose-poignet et dans l'espace qui est ménagé vous avez un deuxième écran et ce deuxième écran bah, donc évidemment il est tactile et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus donc vous avez presque un double écran dans l'encombrement d'un seul enfin d'un portable normal et vous avez en prime d'ailleurs un repose-poignet qui est dépliable dessous. Voilà donc c'est un portable absolument énorme qui est bon évidemment avec les derniers composants enfin c'est une machine absolument folle. Est-ce que toi, ça te séduit d'avoir presque deux écrans en un, comme ça, dans ton laptop?
Moi, j'aime bien la Touch Bar aujourd'hui. J'en ai pas une utilisation folle, je l'aurais pas, ça me manquerait pas du tout. À l'époque, j'avais la possibilité de m'équiper avec cette version-là, et j'étais un petit peu curieux aussi. Je trouve ça intéressant. Honnêtement, c'est beaucoup plus pratique d'avoir cette bande plutôt que les touches de fonction, parce que il y a ce côté contextuel qui fait qu'en fonction des applications, forcément, t'as plus d'outils contextuels sous la forme de touches. Il faut quand même avoir cette petite démarche d'avoir le regard qui se baisse vers le clavier, qui remonte vers l'écran en permanence. C'est pas forcément naturel, mais quand t'as pris l'habitude, je trouve qu'il y a des éléments quand même satisfaisants. Je sais que l'ergonomie plaît pas à tout le monde parce que on peut avoir les doigts qui débordent et qui déclenchent des fonctions non désirées parce qu'on a les doigts qui touchent cette partie tactile. Bon. Donc à ce stade, moi j'aime bien. Et donc du coup, je suis très curieux de savoir quelle pourrait être la plus-value. Le problème, c'est qu'on n'est plus sur une bande de touches qui est dynamique, parce que finalement, c'est un peu ça la Touch Bar qui est proposée par Apple. C'est des touches, mais qui sont dynamiques. Et pour les rendre dynamiques, c'est un écran. Et on n'a pas trouvé mieux pour l'instant qu'un écran tactile. Ce qui serait génial, c'est d'avoir les aspérités des touches et d'avoir un peu de relief. Et là, on est plus que sur une petite bande de touches, on est sur un second écran. Et il y a un peu le phénomène Nintendo DS dans cette histoire, sauf qu'évidemment, on est dans un format qui n'a rien à voir. Et j'ai un petit peu peine à identifier spontanément comment on peut l'utiliser au quotidien et dans les applications. Encore faut-il d'ailleurs que les applications soient prévues pour et que les usages soient bien contextualisés selon les situations. Et là, ça dépend aussi des intégrations, je pense, par les développeurs. Mais je suis très curieux. Au premier abord, ça fait sourire. On se dit, il y a un petit peu une dérive et on se dit que c'est une grosse touch bar. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est un deuxième écran plus que la volonté de, je sais pas, copier Apple en faisant quelque chose de plus gros et de mieux fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est une proposition pour voir s'il peut pas y avoir une adhésion autour de deux zones d'écran distinctes.
Oui,
donc je suis assez curieux.
Bah, tu vois, d'ailleurs, moi, j'avais le même sentiment que toi sur le, mais je l'ai toujours pas, sur le touchscreen qu'il y avait sur le trackpad. Dans les screenpads, donc Asus avait l'année dernière déjà, on avait déjà parlé, il y avait voilà dans certains portables Asus, hein, les haut de gamme, il y avait un écran tactile à la place du touchpad. Et donc moi, je l'ai manipulé donc dans les magasins, parce que je n'ai pas acheté un non plus, mais voilà, j'ai manipulé un petit peu. Et ça m'a pas du tout convaincu. Alors, bon, évidemment, ce qui a achevé de me refroidir, c'est qu'en plus, ça consomme beaucoup de batterie, cette connerie, et que du coup, tu perds de l'autonomie, donc c'est assez ridicule. Pourtant, Asus est revenu à ce Computex 2019 avec un ScreenPad 2.0, plus large, avec une ergonomie revue. Bon, apparemment, ça a l'air aussi de consommer beaucoup moins et d'avoir sa propre puce graphique, ce qui est pas un mal. Ils ont l'air d'y croire à cette espèce de zone qui est donc multifonction, complètement bon, voilà, c'est complètement ouverte. Moi, j'ai un petit peu de mal, j'ai jamais compris. Enfin, tu vois, pour moi, le touchpad, t'as le doigt dessus, et puis voilà, quoi. Je comprends pas très bien comment est-ce que tu peux utiliser ça en tant que second écran. Mais bon, à part, c'est peut-être une tendance, parce que c'est vrai que le double écran, c'était un petit peu la tendance, il me semble me souvenir de l'année dernière. Ouais, ça continue un petit peu cette année, clairement.
Alors, mais pas qu'au Computex, hein, je crois.
Non, c'est vrai, pas qu'au Computex. Alors, si on parle d'écran, il y a aussi des écrans assez intéressants qui, eux, par contre, je trouve, disons, plus facile à imaginer les usages. C'est les écrans externes qui sont qu'on peut alimenter soit en micro HDMI, soit en USB-C. Donc il y en a deux. Donc il y en a un, je sais pas exactement pourquoi il existe, puisqu'il s'agit d'un très très beau écran 17 pouces. Full HD, IPS, donc très très bien. Il tourne à 240 Hz. Je vois pas à quoi ça sert, j'ai pas compris. Je veux dire, je veux bien que 60 Hz soit mieux que 30, je veux bien que dans certains cas 120 Hz, bon, et encore, franchement, mais 240 Hz, je comprends pas. Mis à part saturer le HDMI, je vois pas à quoi ça sert. Bon. Ça existe. Plus utile, peut-être, il y a le touchpad externe, donc c'est un écran USB-C qui est tactile et qui, dont la vocation, évidemment, c'est de se mettre soit sur un PC, soit sur un téléphone, mais en fait, peut-être plus sur un téléphone, puisque si vous le branchez avec un téléphone compatible, qui fonctionne avec, bah, vous branchez votre téléphone sur l'écran, et donc bah, vous avez exactement une réplique de l'écran de votre téléphone, mais beaucoup plus gros, et donc évidemment c'est beaucoup plus pratique pour certaines applications. C'est une sorte de, voilà, de super téléphone que vous avez comme ça, d'appoint. Je veux bien croire que ça puisse être un petit peu plus utile, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, alors ça peut-être finalement par là que ça passera, cette espèce d'utopie du smartphone qui se transforme en ordinateur, et si finalement le smartphone restait smartphone, mais avec un affichage adapté et plus grand, bon, peut-être que ça suffirait à bien des besoins. Tu vois, c'est tout bête. Alors, je pense pas pour tous les usages, mais pour saisir du texte, il y a plein de personnes qui aujourd'hui y arrivent très très bien sur écran tactile. Si finalement ils y arrivent tout pareil, mais qu'ils ont une restitution sur un grand écran, peut-être que ça peut leur satisfaire. Bon, je suis pas pleinement convaincu, hein. J'essaye de trouver aussi des justifications. Sur le 240 Hz, j'ai vraiment du mal à voir ce que ça peut apporter 240 Hz. Une chose est sûre, c'est que la différence entre 60 et 120 est très difficilement perceptible. Revenir de 120 à 60, ça se sent. Donc peut-être que de passer de 120 ou de 60 ou je ne sais quoi à 240, ça change rien, et peut-être aussi que si on revient en arrière, on voit la différence. Maintenant, est-ce que c'est vraiment gênant? C'est-à-dire quand on dit qu'on voit la différence, c'est que c'est pas non plus quelque chose qui gêne, et l'œil s'habitue très très vite à avoir une fréquence de rafraîchissement qui soit pas dingue. Alors peut-être qu'il y a aussi certains besoins professionnels très très pointus qui le nécessitent, mais je vois pas trop spontanément lesquels qui nécessiteraient de la production en masse comme ça. Donc voilà, je rejoins ton scepticisme en tout cas. Alors parle-nous plutôt d'ordinateur, parce que là il y a eu aussi le lot de propositions d'ordinateurs, comme tu l'as marqué, classieux et bourgeois.
Ah, des ordinateurs bourgeois, bien sûr, donc les Alienware M15 et M17 qui sont des monstres, enfin c'est des monstres. Justement pas, ils sont de plus en plus fins, c'est même incroyable de voir la finesse. Enfin, honnêtement, il y a 2 ans, ça c'était un portable, c'est presque un ultrabook, quoi, tu vois. Sauf que dedans, là, t'as un Core i5 9300, ça va jusqu'au Core i9, et tu peux avoir une RTX 2080 dans le châssis, quoi. Donc il y a des progrès qui sont absolument monstrueux en termes de dissipation thermique. C'est aussi vrai pour les XPS, l'XPS 13, et qui est d'une finesse incroyable et d'une légèreté incroyable, tout en conservant des niveaux de performance vraiment, vraiment très très impressionnants, quoi. Il y a les Dell Inspiron aussi qui sont très très fins. Très rigolo, il y a d'ailleurs chez Dell, il y a le IO, l'Inspiron IO, qui est un tout un an, ce que tu mets sur ton bureau, qui a des bordures très très fines. Ça aussi, évidemment, c'est une grosse tendance du salon, avoir des bordures qui...
C'est joli, il faut reconnaître.
C'est magnifique, c'est des écrans superbes, c'est un petit peu comme sur les téléphones aujourd'hui, quoi, hein, c'est assez logique. Et d'ailleurs, il y a les mêmes problèmes, c'est-à-dire où est-ce qu'on fout la webcam? Eh bien, l'IO...
Peut-être les mêmes solutions.
Et oui, les mêmes solutions, puisque l'IO, donc le tout un an, a une webcam escamotable qui donc rentre à l'intérieur à l'arrière. C'est quand même plus facile sur un gros ordinateur que sur un téléphone, hein, il faut bien le dire, mais c'est une option qui est intéressante. Et donc oui, bourgeois et classieux. Alors il y a les expérimentations encore de chez Intel qui sont tout à fait rigolotes, puisqu'il y a par exemple le Twin River. Alors Twin River, c'est... Alors, c'est pas un ordinateur en tissu, parce que évidemment c'est pas possible, mais disons que tout simplement il est recouvert d'une couche de tissu moelleux et soyeux.
Matière noble.
Ce sont des matières nobles, exactement. Alors c'est un double écran, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de clavier, hein. Vous avez deux écrans, l'un et tout, qui peuvent servir un petit peu à ce que vous voulez, un petit peu quoi, à l'image de ce qu'on avait d'autres portables dont on avait déjà parlé. Et puis, si vous trouvez que le tissu c'est bien, mais c'est pas assez noble, vous avez l'option bois. Voilà, c'est HP qui fait ça, les Envy Wood Series. Vous avez ça en deux couleurs, et donc vous avez du bouleau ou du noisetier pour accompagner le plastique plus clair ou plus foncé. C'est évidemment, c'est quand même aussi très très classe. Moi, je dois t'avouer que je suis assez sensible à ces ordinateurs qui sont avec des beaux matériaux qui font plaisir. Le problème, c'est que c'est pas des trucs que tu gardes toute ta vie, quoi. Tu vois, c'est pas comme si t'avais une montre que tu pouvais garder 25 ans, hein, d'ordinateur, tu vas l'utiliser. Bon, moi j'ai tendance à les garder assez longtemps, mais enfin, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, tu commences à imaginer en changer, tu vois. Donc, mettre des matériaux très nobles dans quelque chose que tu changes tous les 5, 6 ans, 7 ans maximum, bon, c'est un petit peu. Et encore. Je suis généreux. Mais bon, c'est que ça fait toujours plaisir.
En plus, il faut remarquer que c'est des matériaux nobles qu'on peut pas récupérer, quoi. Le bois qui est utilisé dans ces trucs-là, bon, il aura servi qu'à ça au final et il servira probablement à rien d'autre.
Alors, tu sais qu'il y a eu, c'était pas le premier, hein, il y avait déjà eu les Asus qui avaient fait du bambou, des trucs en bambou. C'était pas idiot d'ailleurs parce que ça faisait un truc assez léger. Et plutôt, voilà, donc pourquoi pas, tu vois, des trucs, moi si c'est des matériaux nobles qui sont, comme d'habitude, hein, cultivés de manière un peu renouvelable, tu sais, un petit peu durable et tout ça, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi pas, écoute, on verra, peut-être que dans quelques années tu seras équipé de ton ordinateur en hêtre, par exemple, on verra.
Voilà, pour l'instant mon ordinateur est plutôt en mousse, donc il faut que j'en change. Mais...
il est en mousse, très bien, oui, mais comme tu les gardes longtemps, c'est bien, il aura une bonne durée de vie.
Oula, si tu n'imagines pas.
Est-ce qu'il fume parfois?
Non, mais il a 10 ans maintenant, hein, c'était.
Parfois, la sonnerie Skype ne retentit pas quand on t'appelle, par exemple.
Non, mais c'est pas, je parle pas de celui-là, je parle de mon PC de bureau que j'ai depuis une dizaine d'années maintenant.
D'accord. Ok. Bon, écoute, on reverra ce qui se passera dans quelques années. On fera le point sur les matériaux qui équipent tes ordinateurs. En tout cas, on enchaîne toujours dans le Computex 2019 avec une partie plus chronique des composants. C'est un peu la chronique des composants dans le Tech Café auquel on a droit, avec pas mal de petites nouveautés de toutes les écoles, hein, finalement, de toutes les crèmeries. Il y en a pour tout le monde. Bon, fais-nous un petit peu le tour de ces nouveautés composants.
Mais oui, c'est une CDC, mais c'est le Computex, c'est l'actu, donc j'ai le droit. Alors, on va commencer avec ARM, hein, donc on a parler,
tu vas laisser sous-entendre qu'on t'empêche de faire des chroniques.
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Jamais. Au grand désespoir de certains, peut-être, mais. Donc, ouais, bah oui, forcément. Donc, tous les constructeurs. Hein, donc, on commence par ARM, évidemment. Alors, ARM, c'est une entreprise désormais japonaise qui conçoit les cœurs des puces qui sont dans tous les téléphones.
J'étais convaincu que c'était encore anglais, moi, ce truc.
Ça a été racheté par SoftBank.
C'est japonais.
C'était lancé par SoftBank il y a pas très très longtemps, mais il y a quand même peut-être 2 ans, un truc comme ça, 2-3 ans. Bon, enfin, tous les cas, évidemment.
Le siège reste au Royaume-Uni.
Alors, ils ont probablement toujours des gens au Royaume-Uni, oui.
Parce que justement, je voyais que Huawei avait des plans d'installer des centres et des grosses infrastructures au Royaume-Uni et que évidemment, ce que fait ARM remet un petit peu en question tout ça, quoi.
Oui, parce que même en passant par un intermédiaire, je pense que les Américains, ça va pas marcher, ça.
Évidemment.
Ça paraît un petit peu trop facile. Toujours est-il que donc ARM évidemment a proposé cette nouvelle génération de puces et l'a présenté, donc c'est la génération 77 comme moi. Donc il y a les Cortex A77, alors c'est un CPU qui grossit un petit peu, donc c'est un CPU qui va équiper tous les hauts de gamme en 2020, hein, tout simplement. Et donc qu'est-ce qu'il y a au menu? C'est un processeur qui est un petit peu grossi, qui est 17% plus gros que son prédécesseur, hein, donc ça promet aussi 20% de performance en plus à fréquence égale. Et bon, évidemment, il essaie toujours d'exécuter le plus d'instructions par cycle d'horloge, et donc à 2,6 GHz, ça viendrait chatouiller les Apple A11, voire les dépasser en termes d'efficacité énergétique. Alors évidemment, l'Apple A12 reste toujours hors d'atteinte, hein, mais bon, il faut bien se rendre compte que les puces Apple, elles sont extrêmement puissantes et elles sont aussi très grosses. Parce qu'en fait, Apple, à dessein, hein, crée des puces qui sont beaucoup plus proches des puces de PC de bureau que des puces de téléphone mobile. Donc c'est des puces qui sont aussi grosses et très chères à produire, alors que les A77 sont significativement plus petits. Ça, c'est pour le cœur CPU. Il y a aussi des GPU, bien entendu. Donc, les GPU ARM, ça s'appelle les Mali. Et ça est utilisé dans les puces Huawei, en l'occurrence. Donc, cette année, on va passer à la G77, nom de code Valhalla, où ils aiment les noms nordiques. Il y avait eu Bifrost, il y avait eu, je sais plus trop.
Voilà, là, il y a rien au-dessus, quand même.
Oui, bah, c'est pour ça. On se demande ce qu'ils vont trouver.
On se demande ce qu'il y aura après, quoi.
Oui, bah, ils peuvent toujours trouver les trucs, des loups, je sais pas, Freya, je sais pas, bon, on s'en fout. Donc. Okay. Oui, il y a toujours des trucs. Les Mali, par contre, elles sont pas connues pour être des championnes, par contre, hein. Les G72 et les G71, par exemple, ont beaucoup déçu et Honor avait, à l'époque, été accusé de truquer les benchmarks pour essayer d'améliorer un petit peu les chiffres. Bon. Les G76 ont été nettement meilleures, mais elles restent quand même derrière les Snapdragon. Et les Adreno, donc des Snapdragon, et bien sûr, ils sont bien derrière les puces Apple. Alors, Valhalla, ou Valhall, comme ils disent, ça se veut être un redesign majeur quand même de l'architecture autour d'une constatation, les jeux mobiles se deviennent de plus en plus compliqués, autant que sur PC, parce que parfois ils viennent directement du PC, hein, il y a PUBG, Fortnite. Donc ce qu'il faut, c'est une puce costaud prévue pour encaisser beaucoup de threads et beaucoup de shaders complexes, et du coup le langage machine même de la puce change, donc elle devient superscalaire, et elle possède une capacité à décider de l'organisation du travail, un petit peu comme un CPU. On a déjà parlé plein de fois de cette histoire de la possibilité de réorganiser un petit peu le boulot pour optimiser l'occupation des puces. Et donc elle encaisse les threads 16 par 16, et possède une hiérarchie de cache aussi, un petit peu comme un CPU aussi. Il y a des unités qui sont fusionnées en clusters plus gros pour limiter les redondances. Hein. En plus, il y a deux fois plus d'unités de texture. Et puis les puces peut-être sont scalables, se configurent entre 16 et 17, entre 7 et 16 clusters, selon les besoins. Hein. Et donc on se retrouve avec des puces qui sont entre 20 et 40% meilleures, pour une même surface. Donc ça fait 30% d'efficacité énergétique en plus. Ça devrait combler les retards sur les Adreno, jusqu'à ce que Qualcomm sorte des vraies puces encore plus puissantes, évidemment, c'est sans fin. Alors, il y a un dernier truc quand même qui fait partie de du package, on va dire, que propose ARM, c'est le D77, c'est le D pour Display Processor. Alors c'est lui qui s'occupe d'afficher les images en fait sur l'écran. Donc il s'occupe d'afficher jusqu'à 3K en 120 fps sur un écran de ton choix. Mais plus intéressant, celui-ci va offrir des fonctions avancées pour la VR et la réalité augmentée. Donc le D77 compense la distorsion des lentilles, par exemple. Il compense aussi les aberrations chromatiques, et tout ça en hard, directement pour les casques. Donc il va supporter des trucs aussi très avancés, comme le Asynchronous Time Warp. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui permet de préserver la fluidité des mouvements de ta tête, hein, même si le GPU ne suit pas. Et comment il fait? En fait, il reprojette les images que la GPU a créées. Donc il les reprojette, c'est-à-dire parce que normalement évidemment la GPU doit calculer une image chaque fois que tu bouges la tête, quoi. Mais si c'est pas le cas parce que la GPU elle suit pas, il peut reprojeter les images, les réadapter pour créer des images intercalaires artificielles, et donc ça vient soulager un petit peu le GPU, et ça c'est très très bon pour les casques autonomes. En plus le D77 génère, je crois qu'il gère jusqu'à 4 couches VR. Donc ça veut dire que tu peux imaginer une compositing de HUD, une couche 3D, un fond, etc. Et tout ça, c'est gratuit, donc c'est quand même vraiment pas mal.
Ça, c'est gratuit. C'est pris en charge par la puce, quoi.
Oui, exactement. Oui, c'est gratuit, on va dire. C'est pas plus cher.
C'est offert par Guillaume Bocchestala.
C'est exactement ça. C'est pas plus cher en termes de GPU, quoi. C'est-à-dire la GPU peut s'occuper d'autres choses.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre, du coup, toujours sous l'angle des composants? Assez naturellement, il faut qu'on parle des petites news autour d'Intel, forcément.
Évidemment, il était là aussi, hein. Et puis, en plus de présenter des portables gaming complètement délirants, ils ont aussi présenté, tu sais, les nouvelles unités of computing, les nouvelles UniC, c'est les trucs comme cette histoire d'UniC modulaire. C'est des unités modulaires que tu devrais normalement pouvoir mettre, si t'as besoin de plus de puissance, t'enquilles comme ça des unités supplémentaires. Bon, c'est une idée qui est, Apple a la même idée depuis des années, et chaque année, ils changent de format. Ce qui fait que personne n'utilise ces trucs. Donc voilà. Donc cette année, ça a pas loupé. Il y a une nouvelle unité of computing modulaire, avec un format différent, qui donc probablement ne servira strictement à rien. Bon. Après, ils ont quand même aussi parlé de Ice Lake, qui est la génération 10 de corps en 10 nanomètres. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas très impressionnant.
Ah, mais j'ai pas lu ça dans la veille, moi, du coup, justement. Ah, c'est intéressant. Alors, c'est pas si ouf que ça, c'est ça?
Non, les nouveaux CPU sont un petit peu plus rapides. Ils sont 18% plus rapides que les CPU d'il y a 5 ans. Donc, youpi.
Ah, oui. Et 18% en plus, tu disais, waouh, mais d'il y a 5 ans, bon.
Non, il est comparé à des Broadwell, je crois. Donc, c'est pas, non, les améliorations au niveau des CPU sont pas très, très incroyables, hein. Faut le dire. Mm-hmm. En tout cas, mm-hmm. à la même fréquence. Par contre, les GPU intégrés, qui est les Gen 11, eux, doublent de puissance. Donc, on passe à 1 teraflop.
C'est là où j'ai vu des avantages, du coup.
En 32 bits, ouais, quand même. Bon, le problème, c'est que comme ça partait de bas, c'est toujours pas décoiffant. C'est-à-dire, on passe à 30 FPS. Et on dépasse les 30 FPS dans Fortnite en détail low.
Ouais. Donc. Ouais. Ah oui, donc c'est pas dingue, mais effectivement.
C'est mieux. C'est jouable, au moins. Hein. Mais bon, de là, grimper au rideau, peut-être pas, quoi. Alors, plus intéressant, il y a quand même l'encodage H265 qui est deux fois plus rapide. Et surtout, il y a le support de Thunderbolt 3 et de Wi-Fi 6, qui est, s'il est implémenté par les constructeurs, ça, ce serait par contre un vrai plus.
Donc, c'est mieux, mais ça change pas le panorama de l'utilisation qu'on peut faire de ces processeurs et des différents acteurs, quoi. Ok, alors des news du côté de chez AMD aussi?
Oui, bah forcément. Donc, lui, il a... Alors, on avait parlé de Frontier, qui était le prochain CPU, le truc hexafloppique, un truc de foufou. Donc, apparemment... AMD a conçu des puces spécifiques pour Frontier, hein, non seulement en termes d'interconnexion GPU-CPU, mais même en termes d'architecture. Les cœurs de Frontier seront en 7 nanomètres, mais ce ne sera pas des N3. Normalement, tu sais, c'est la nouvelle génération, c'est les N3, d'ailleurs, ils les ont annoncés. Et apparemment, AMD a officialisé les puces serveurs, donc EPYC de génération 3 et 4. Mais bon, apparemment, ce seront des puces différentes, qui seront probablement plus massivement parallèles, avec des liens plus étroits avec les accélérateurs. Donc, c'est des trucs vraiment spécifiques qu'ils ont fait pour Frontier. Donc, le superordinateur le plus puissant, qui dépassera la barre de l'exaflop et tout. Bon, on en a déjà parlé. Quant au CPU grand public, bon, non, plus proche de nous quand même, hein, ben, il y a les Ryzen 3000 qui arrivent le 7 juillet. Alors, le plus gros, c'est le Ryzen 9 à 3900X, donc c'est 12 cœurs, à 3,8 GHz, 4,6 Go en turbo. Et c'est quand même vraiment pas mal, surtout que c'est $500. Et si on le compare à une puce à $500 d'Intel, c'est-à-dire un Core i9 9700K, ben, ouais, il serait quand même 95% plus rapide, ce qui fait vraiment très très mal.
Ouais, donc enfin, il y a pas photo même en fait.
Ben, en termes de rapport puissance-prix, effectivement, ça a l'air d'être très très compétitif, ouais.
Ouais. Ok. Autre news du coup du Computex aussi avec Navi.
Oui, Navi, bien sûr. C'est alors AMD, il fait aussi les cartes graphiques évidemment. On peut pas ne pas mentionner Navi. C'était un teasing plus qu'autre chose, hein, puisque après Vega et la Radeon 7, la grande famille des Radeon verra arriver Navi. Donc c'est le nom commercial, enfin sous le nom commercial de Radeon 5000. Oui, les Radeon 5000, comme il y a 10 ans. Bon, officiellement, c'est pour commémorer les 50 ans d'AMD qui repassent donc à une numération comme ça.
Joyeux anniversaire,
ouais. Et oui, Navi, c'est une puce en 7 nanomètres qui inaugure une nouvelle architecture qui s'appelle RDNA. Ce qui veut dire Radeon DNA, donc oui, je sais, ça veut strictement rien dire, ce serait 25% meilleur que Vega, et ça utiliserait de la GDDR6 et du PCI Express 4. Donc ce serait... c'est du 7 nanomètres, hein, et le 7 nanomètres de TSMC, quand même, elle serait présagée une carte 50% plus efficace en termes énergétiques que la Radeon 7. Bon, évidemment, c'est excitant tout ça, mais la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'elle fera du ray tracing? Parce que bon, Nvidia,
oui.
Ben oui, Nvidia le fait, Intel a dit qu'il en ferait, bon alors. Ben AMD, justement, il n'a fait aucune mention officielle. Et oui, dans le teasing, alors Lisa Su entretient le mystère, donc sur le ray tracing, c'est le futur du gaming, dit-elle. Mais selon Saphir, donc un intégrateur, donc enfin un partenaire AMD qui est historique quand même, il n'y a pas de ray tracing dans les dernières, enfin en tout cas dans les premières versions de Navi. Voilà, si tu fais du ray tracing, ce sera en logiciel. Il n'y aura pas de briques accélératrices spécifiques comme les RT Core chez Nvidia. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour la PS5? Je sais pas, suspense.
Ouais, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de prise en charge du ray tracing nativement sur le plan matériel, du coup. Mais bon, on verra. Et puis, je voulais te proposer de nous toucher peut-être un petit mot pour essayer de décortiquer, essayer d'y voir clair sur ce qui est présenté comme étant un concurrent possible au Snapdragon 855 du côté de chez MediaTek qui est compatible 5G.
Oui, bah MediaTek fait des puces qui sont plutôt de bon rapport qualité, enfin de bon rapport puissance-prix, hein, c'est des chinois. Et MediaTek, en fait, ils vont sortir une puce qui sera basée donc sur les Cortex A77 et Mali-G77, donc dans les puces dont j'ai parlé, dont je viens de parler. Et ce qui est intéressant, c'est que le MediaTek, lui, par contre, ils sont taïwanais en fait. Hein.
Ah oui, pardon, je l'avais en chinois, tu vois, en tête, effectivement.
Ouais, ils sont taïwanais. Attention, c'est...
On va les fâcher,
exactement.
Et pour des bonnes raisons, enfin.
Tout à fait. Et donc voilà, donc MediaTek donc va sortir une puce qui non seulement utilisera donc ce set de composants, ce qui est assez logique, mais qui aura aussi donc de la 5G. Il y aura un modem et ce sera un modem qui sera pas un modem Qualcomm. Donc ce sera une alternative intéressante à Qualcomm sur ce secteur. Et donc ce serait évidemment, c'est pour ça qu'on le présente comme un concurrent au Snapdragon 855, puisque voilà, évidemment Qualcomm propose toujours des puces équipées de modems, ce qui est un gros avantage compétitif.
Eh ben parfait, c'est toujours bien quand il y a de la concurrence là-dessus, on continuera à le suivre. On enchaîne avec une rubrique jeux vidéo, parce que justement on parlait de ray tracing, et c'est peut-être un argument qui va nous bercer. Alors qu'est-ce qui va se passer le 6 juin 2019, Guillaume ?
Les Strogs débarquent, ils redébarquent. C'est les Strogs, c'était les extraterrestres qui débarquaient dans Quake 2, et donc vous pourrez rejouer à Quake 2 le 6 juin, et vous pourrez y rejouer en ray tracing. Ça veut dire que vous y jouerez évidemment dans des conditions incroyables avec un éclairage ultra réaliste, des ombres, des réflexions, de l'éclairage indirect, c'est complètement fou. Si vous voulez en savoir plus sur le ray tracing et comment ça marche et ce que ça apporte, eh ben, il y a deux vidéos, donc dans le lien sur le note de l'émission, il y a une vidéo de démo de Quake 2, donc en ray tracing, activé, désactivé, et aussi une vidéo où un mec vous explique qu'est-ce qu'on fait, et vous allez voir que c'est assez incroyable. Donc en gros on suit les rayons lumineux, on en suit beaucoup, et ça donne un rendu très réaliste. C'est très intéressant, donc je vous encourage à aller voir ça.
APEC Construct.
Oui, là c'est un petit tunnel de news sur l'Oculus Quest. L'Oculus Quest est sorti et il y a des gens qui essayent de le pousser dans ses derniers retranchements. Alors l'Oculus Quest c'est un casque VR sans fil, et donc il y a le tracking se fait directement par le casque, par les caméras qui sont sur le casque, et donc vous n'avez pas de limite vraiment à la taille des lieux où vous pouvez vous trouver et dans lesquels vous êtes localisé, vous êtes repéré. Du coup il y a un mec qui s'est dit: est-ce que je pourrais jouer à un niveau d'Apex Construct, qui est un des premiers jeux qui est achetable sur le Quest, mais en utilisant uniquement mes jambes? Évidemment, tous ceux qui ont fait de la VR savent bien que soit il faut utiliser une manette pour se déplacer, soit de la téléportation, mais que vous pouvez pas, évidemment, vous déplacer uniquement avec vos jambes, au risque de vous prendre des murs. Bon.
Exact.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait?
Il faut avoir un très 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 grand intérieur.
Oui, ou un terrain de foot de 6000 m². Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est allé sur un gros terrain de foot, il s'est pris Apex Construct, et en fait le terrain de foot est suffisant pour parcourir la totalité de niveau du jeu uniquement avec ses jambes. Donc voilà, tu cours, tu évites les robots, mais à un même moment il est tombé sur le dos, tu fais des roulés-boulés, non peut-être pas, ça abîmerait le casque, mais c'est presque ça. C'est assez impressionnant, parce que ça montre quand même la potentialité et la robustesse du tracking du Quest. Et de la même manière d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des expérimentations de VR partagées. Donc il y a une VR entre amis. Alors c'est une... je ne me souviens plus. Oh là là. L'entreprise, c'est Thrust Vector. Voilà. C'est Thrust Vector. C'est une entreprise qui est... qui est connue pour avoir fait un truc assez rigolo, puisque c'est un logiciel qui permet de piloter un avion avec un casque Oculus Go. Alors à quoi ça sert? En fait, c'est de la faire de la réalité augmentée, tout simplement, puisque... dans l'Oculus Go, vous voyez ce que vous êtes censé voir, avec en plus des informations qui vous permettent de voler plus facilement, quoi. Alors, il y a des vidéos là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les mecs de la boîte se sont amusés à faire un niveau de jeu, vidéo, donc avec en 3D, qui était, qui avait le même plan que leur bureau. Et ils ont synchronisé leur position avec un serveur. Et du coup, ils sont à deux dedans. Donc, ils se voient l'un l'autre.
Génial.
Et ils se déplacent dans leur bureau. Et comme c'est le plan de leur bureau et que c'est la même chose que le niveau, ils se prennent jamais aucun mur ni aucune table. Et du coup, les mecs s'amusent comme des couillons à deux dans leur bureau. Et donc, c'est une expérience partagée qui pourrait éventuellement devenir accessible à tout le monde. Alors que pour l'instant, c'est évidemment très compliqué puisqu'il faut des setups. Il faut aller dans des salles d'arcade spécialisées. avec des casques sans fil, avec des backpacks, enfin tu sais, des PC sac à dos, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de qui est réservé à des professionnels. Ben là, ça pourrait devenir, voilà, il suffirait juste que toi et ton pote aient un Oculus Quest et hop, pourrait vous amuser ensemble en réalité virtuelle.
Les ressources en divertissement de réalité virtuelle, ils sont là, hein, ils sont même plus à chercher. Maintenant, il va falloir aller creuser ce qui permettra de faire de la démocratisation. On voit les choses arriver doucement, on ne sait pas quel sera le game changer, on verra bien. Un petit mot sur Robot Recall.
Oui, bah alors ça c'est plutôt, effectivement, je vais pas détailler parce que c'est vrai que ça serait trop long, mais Robot Recall, c'est un jeu qui est sorti pour Oculus Rift sur gros PC, sur PC de joueurs, qui est donc assez lourd graphiquement.
Ça a l'air magnifique.
Et qui est donc compensé, donc réservé évidemment à des bon, soit à PlayStation, soit à des PC de gamers. Or, il est sorti sur Oculus Quest et il est presque identique. Et donc c'est vraiment très impressionnant. Et donc il y a
Que tu entends par presque ? Tout est dans le presque.
Ben c'est en fait les graphismes sont pratiquement identiques, quoi. C'est-à-dire il y a les modèles ont été légèrement simplifiés, les textures ont été recompressées, tout ça. Mais globalement, si tu fais pas attention, tu vois le même jeu. Et c'est vraiment très impressionnant. Et donc il y a un article assez long où les gens qui ont été responsables du portage, qui ont mis 4 mois seulement à le faire, explique à quel point ils ont dû réfléchir sur tel et tel truc pour optimiser, mais que finalement ça s'est fait de manière relativement facile, relativement évidemment, et donc ils expliquent à quoi ils ont dû faire attention, et ça montre, et c'est très, très encourageant, ça montre que quand tu as une machine comme une console de jeux vidéo où tu connais très exactement les spécifications que tu peux te permettre d'optimiser pour elle, tah, tu peux vraiment économiser beaucoup, donc ça... Ben, je trouve que c'est plutôt intéressant et plutôt encourageant pour l'Oculus Quest.
Juste avant qu'on passe à une autre sous-partie jeux vidéo qui sera peut-être assez éloignée de la réalité virtuelle, je sais pas, c'est en trame de fond, j'ai le sentiment que tu, à titre perso, presque, tu serais de plus en plus captivé par l'Oculus Quest. Est-ce que c'est, enfin, on en parle assez régulièrement dans Tech Café quand on parle de jeux vidéo et de par notre veille, est-ce que c'est parce que tu penses que c'est là où il se passe le plus de choses et c'est là où il y a le plus de moves? Ou est-ce que, et les deux sont pas forcément incompatibles, tu serais pas tenté pour t'équiper d'un Oculus Quest, tel que je te connais, Guillaume? Allez.
Mais l'Oculus Quest, si tu veux, c'est... la VR sans fil autonome, c'est l'idéal. C'est ce qu'il y a de mieux, évidemment. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est... Voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après, évidemment, mais il y a le problème de la puissance graphique qu'il y a derrière. Je trouve que l'Oculus Quest est très honnête, honnêtement, pour...
Est-ce que tu as eu l'occasion de tester?
Non, j'ai pas eu, pas encore, non. Mais
j'aimerais beaucoup le tester.
Mais je l'ai même pas encore vu en vente encore, hein. Il faut le commander, je l'ai vu nulle part pour l'instant. Tu l'as déjà vu en vente, toi?
Non, enfin, c'est sur Internet que je l'ai vu, je l'ai pas
vu
en magasin.
Non, je l'ai pas vu en magasin non plus. Okay. Enfin bon, toujours est-il que oui, c'est une machine qui est intéressante, et surtout, c'est une machine qui, pourrait démocratiser un petit peu le truc, et... Voilà, c'est assez intéressant de voir, parce que c'est quand même pour l'instant le seul de son espèce, tout simplement aussi. Hein.
On va continuer à suivre ça de près, mais il se passe des choses autour de la VR, c'est cool. Allez, on s'éloigne, qu'est-ce qu'il y a de plus aux antipodes de la VR que la prochaine news? Alors écoute, enfin moi je reste un petit peu sceptique sur l'engouement qu'on pourrait avoir sur ce sujet. C'est quoi ce bidule? Allez, présente-nous le prochain bidule, Guillaume.
Écoute, j'ai eu le plaisir d'aller en Irlande il y a peu, donc la semaine dernière, et j'ai vu donc le magazine Edge en kiosque, et Edge donc a eu l'exclusivité de la sortie d'une nouvelle console de jeux vidéo portable qui s'appelle la Playdate, dans laquelle ils expliquent un petit peu la genèse de ce truc-là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une console à contre-courant, un petit peu à absolument tous les niveaux. Alors, c'est déjà... à contre-courant, parce que c'est Panic qui fait ça, et Panic, en fait, c'était des développeurs de software, hein, c'est des développeurs logiciels.
Développeurs assez connus sur Mac, notamment. Enfin,
oui, tout à fait.
Très chouette app sur
tout
Mac.
Tout à fait. Panic, ils développent des Transit. Logiciels. Ils sont aussi devenus des éditeurs. Des éditeurs.
Tu m'as fait peur.
Non, des publishers, des éditeurs, je veux dire. Des éditeurs, et du coup, ils ont eu, enfin, ceux qui ont édité Firewatch, par exemple. Donc ils ont fait aussi des applis un petit peu pour iOS, je crois. C'est plutôt des développeurs, donc c'est pas du tout des gens qui s'y connaissent dans le hardware. Et malgré tout, un jour, ils ont voulu changer et ils se sont dit pourquoi pas faire une console de jeux vidéo. Ah ben oui, pourquoi pas. Et donc ils ont eu l'idée de faire une console de jeux vidéo portable qui serait un hommage en fait au Game & Watch, sur lequel tu pourrais jouer à des jeux Game & Watch. Donc dès le début, ils voulaient un truc assez rétro avec un écran monochrome. Et donc on l'a toujours pas dit, mais la Playdate, donc c'est une toute petite console carrée, toute jaune, qui est extrêmement mignonne et voilà, qui est très rigolote, qui a donc un écran monochrome assez large, qui est d'une très très bonne qualité. C'est un écran monochrome, mais c'est pas du tout un écran de Game Boy. Même si ça a que 4 fois la résolution d'un écran de Game Boy, c'est un écran qui a un contraste très très impressionnant. Et ça déjà, c'est vrai que ça change quand même pas mal de trucs. Donc c'est une console qui est monochrome. Ils se sont dit, on va faire des jeux un petit peu comme les Game & Watch, quoi. Mais ils se sont vite rendu compte qu'ils pourraient faire un peu mieux que ça et que ça pourrait être intéressant. Et donc ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient rajouter. Et comme c'est des développeurs de jeux et qu'ils ont beaucoup d'imagination, ils se sont dit, si on faisait un truc vraiment différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une console simple, mais qui est, au lieu d'avoir des sticks, et si on lui mettait une manivelle? Ça, c'est quand même l'idée du siècle.
Je comprends pas, moi.
Donc, en fait, c'est comme un stick, sauf que tu peux le tourner sans arrêt. Voilà. Évidemment, tu peux le tourner d'avant en arrière. Donc, il y a une petite manivelle sur le côté de la console qui est un périphère. Voilà, c'est comme un bouton d'entrée. C'est une entrée, c'est une input supplémentaire, quoi. Alors, encore plus bizarre, peut-être, sera la manière dont vous pourrez jouer à des jeux, enfin, la manière dont vous recevrez les jeux sur la console, puisqu'en fait, la console sera vendue avec 12 jeux. Mais pas tout de suite, c'est-à-dire que vous recevrez un jeu par semaine par Wi-Fi directement, donc vous aurez rien à faire. Ces jeux seront donc gratuits, enfin gratuits, vous les aurez en achetant la console qui coûte à ce jour 150$ et qui ne sortira qu'en 2020. Hein.
Et en quantité limitée.
Et en quantité limitée, exactement. Et donc ces jeux, c'est des jeux qui seront en noir et blanc, qui utiliseront évidemment les capacités vraiment très spécifiques de cette machine, et qui seront développés par des grands noms, enfin par des gens qui ont déjà travaillé dans le milieu du jeu indé. Évidemment, il y a le nom le plus connu, c'est Keita Takahashi, qui a fait Katamari Damacy. C'est le nom le plus connu, donc ça veut dire que les autres sont pas forcément très connus non plus, hein, étant donné que on reste quand même sur de la niche. Et donc il y a cette console qui est complètement à contre-courant à tous les niveaux, puisque même la distribution se fera à contre-courant, puisque vous ne choisirez pas les jeux que vous recevrez sur la console, et même vous ne saurez pas quel jeu vous recevrez sur la console, en tout cas dans la première saison, et s'il y a d'autres saisons, il y a de gros pareil que ce soit exactement pareil. Alors, c'est dernière petite, dernière petite histoire. Dans Edge, on apprend d'ailleurs que Mark Zuckerberg voulait acheter Playdate. Panic, qui fabrique la Playdate, à une époque où il faisait pas en cours. Ils n'avaient pas du tout en fait l'idée de faire ça. Je pense que si, évidemment, ils ont refusé, hein. Le mec a même pas répondu, d'ailleurs, le président n'a pas répondu.
C'est la classe, quand même. T'as Mark Zuckerberg qui propose de te racheter, tu dis non, tu réponds pas.
Non, mais c'est ça qui est fou. Le mec, il dit non, et après, il fait un truc comme la Playdate. Je veux dire, il faut... Alors, Playdate, donc, vous comprenez le nom, hein, c'est Playdate, si vous avez un rendez-vous avec le jeu. Parce qu'en fait, c'est le jeu qui arrive et vous le choisissez pas. C'est vous avez un rendez-vous avec un jeu, c'est une sorte de blind date avec un jeu, ce qui est assez rigolo. Et d'ailleurs, si Facebook avait racheté Panic, ils auraient très certainement pas fait la Playdate. Je pense qu'ils seraient restés dans leur cœur de métier. Et donc, c'est quand même rafraîchissant, je trouve, de voir une machine vraiment différente, un peu barrée, un peu allumée, ultra hipster, faut bien le dire. Mais pourquoi pas ?
C'est une créativité qui est autrement plus intéressante que enfin mon analogie va être très bizarre parce que les appareils n'ont rien à voir, mais dans l'approche, je trouve ça beaucoup plus intéressant, cette approche est beaucoup plus créatif que des revivals de NES ou de Super NES par Nintendo, et je suis très intéressé par la créativité que ça apporte. Après, on a du mal à le comparer à autre chose quand même, hein, donc ça fait se gratter la tête. Alors, écoute, on verra. Il faudra la précommander, Guillaume, pour être dans le pool de ceux qui auront la chance de la tester, pour que tu nous dises ce que tu en penses.
Et oui, mais tu sais que je suis rien. Il faudrait que je vois si c'est encore s'il en reste.
Ah mais tu, en fait, tu peux pas encore les commander, si je dis pas de bêtises. Tu peux être notifié de la sortie qui aura lieu en 2020 et là il faudra te jeter.
Mais c'est pas les précommandes, non ? Il y a pas de précommande.
Il y a pas de précommande.
Il y a pas de précommande.
Ah, d'accord. Juste averti. D'accord. Tu peux. Mais mets ton adresse email, Guillaume.
Mais oui, mais oui.
Tu verras à ce moment-là. Et puis pour les besoins journalistiques de Tech Café, il faut absolument tester, Guillaume.
Facturer ça sur la boîte. Hein.
Ah oui, bien sûr, oui. On le mettra en note de frais. Avant de passer dans la rubrique en bref, un petit tour. Je vous parlais tout à l'heure de Patreon. Je voudrais citer les personnes qui nous ont rejoint sur le financement participatif. Je l'avais pas fait sur le mois d'avril. Je vais reprendre toutes les personnes qui nous ont rejoint sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Donc il y a Sebi qui nous a rejoint, Mathieu Riffaut, Goody, Erwan qui nous avait déjà soutenu et qui nous resoutient, N20 Cyber, Maxime Letellier, Cyril Dan, Paulin et Wake Emmanuel. Bah merci beaucoup à vous qui avez rejoint la plateforme Patreon pour soutenir Tech Café. Et puis, on espère que l'émission va continuer à vous plaire. Et si jamais vous avez envie de soutenir Tech Café et que vous ne le faites pas encore, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On enchaîne avec une rubrique en bref. Guillaume, on parlait justement, oh là là, ces conducteurs sont décidément toujours aussi bien faits, de Facebook juste avant, qui prévoit des choses en 2020. Ah, ils misent peut-être gros sur la crypto-monnaie, Guillaume.
Oui, bah juste une toute petite news pour dire que Facebook, d'ailleurs, aurait été en contact, enfin Zuckerberg aurait été en contact avec les frères Winklevoss qui sont très impliqués dans les crypto-monnaies, et donc il lancerait une crypto-monnaie qui s'appellerait la Global Coin en 2020. Et ce sera ce qu'on appelle une stablecoin, c'est-à-dire une crypto-monnaie dont la valeur serait adossée au dollar. Donc elle serait normalement pas volatile. Bon, on n'a pas énormément plus d'informations pour le moment. Évidemment, ça sera, quand ce sera officialisé, qu'on aura plus de détails, ce sera forcément très intéressant.
Il y a eu des histoires de signatures, hein, au passage, de Craig Wright sur les papiers blancs, les white papers du Bitcoin. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses avérées encore, hein, pour savoir qui est le fameux Satoshi Nakamoto qui a lancé les Bitcoins. La vidéo truquée de Nancy Pelosi, Guillaume.
Oui, ben c'est un petit débat en soi. C'est, alors, il y a une vidéo de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, très connue aux États-Unis, pas ici. Elle a presque 80 ans. Donc elle est à la House of Representatives, je sais plus comment traduire ça, il se fait tard. Toujours est-il que, bon, c'est une femme politique américaine assez importante qui, donc, évidemment, accuse son âge et qui est donc régulièrement raillée par les républicains, c'est les démocrates. Là-dessus, évidemment, bon, et alors, il y a eu une vidéo qui est, alors c'est pas du tout un deepfake, hein, c'est une vidéo qui est beaucoup plus, bon, c'était beaucoup plus simple que ça. C'est une vidéo dont le rythme, la vitesse avait été modifiée à certains endroits pour faire croire qu'elle avait du mal à parler parce qu'elle devenait complètement sénile. Bon. Cette vidéo a été vue des millions de fois, et bien entendu, évidemment, beaucoup de gens ne se sont pas doutés que ce soit un fake et ont bien rigolé. Alors Facebook a donc été face à un dilemme, hein. Il était en face d'une presque fake news en tous les cas, sauf que c'était pas vraiment une fake news, donc ils savaient pas exactement quoi faire, et en réalité ils ont opté pour l'option de laisser la vidéo en ligne, donc ne pas la censurer, ne pas la bannir, mais en précisant que c'était une vidéo éditée. Donc voilà, une vidéo fake, mais qu'ils ont quand même laissée en ligne. Et donc bon, se poser la question. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu virer cette vidéo? Parce que, bien entendu, rétroactivement, ça marche pas. Hein. Les gens qui ont déjà vu la vidéo, ils l'ont déjà vue. Pour eux, c'est peut-être réel et ça le restera. Du coup, comment faire? Bon, chacun pourra réfléchir là-dessus. Moi, je pense que c'est limite mieux de l'avoir laissé avec la mention que c'était une vidéo éditée et truquée. Parce que sinon, ça pose d'autres problèmes, hein, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut plus faire de, tu vois, je veux dire, est-ce que tu peux plus poster de choses satiriques sur Internet? Bon, la liberté d'expression, tout ça, c'est quand même assez compliqué. Bon, voilà. Moi, je pense qu'ils ont bien fait. Je sais pas toi. C'est toujours des questions délicates.
Ouais. Ouais, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est de savoir. Bon, en fait, c'est devenu un débat trop vaste et on n'aura jamais la réponse de est-ce qu'il faut laisser ou retirer. Enfin, quoi qu'il y a quand même des choses qui font consensus et qu'on veut voir disparaître. Sur les choses sur lesquelles on se pose des questions, ce qui est intéressant, c'est d'apporter des éléments de contexte. Et là-dessus, il y a encore beaucoup de boulot de la part de Facebook, je pense, mais des plateformes en général pour apporter de la pédagogie et justement la diffuser, mais aussi apporter des éléments de contexte pour expliquer la manière dont ça a été amené. C'est un débat sans fin, ça a beaucoup rythmé nos discussions, je crois, Guillaume, dans les Tech Cafés, et j'ai le sentiment que ça va continuer à l'être pour les prochains grands événements qui seront relayés dans les médias et par les réseaux sociaux. Donc oui, c'est un débat sans fin, c'est clair. C'est difficile de le mettre dans les en bref, du coup, d'ailleurs. Mais quand on parle de réseaux sociaux, on peut mentionner le fait que des employés de Snapchat ont espionné des snaps privés. Ils se sont appuyés sur un dispositif interne à Snapchat qui s'appelle SnapLion, qui est un outil qui permet de répondre à des requêtes judiciaires, notamment. Et ils ont détourné cet usage, certains employés, pour accéder à plusieurs données personnelles, notamment de la part d'utilisateurs, dont la géolocalisation, dont des données telles que les numéros de téléphone, mais évidemment messages, des snaps privés. Si jamais c'était encore l'occasion de le rappeler, n'oubliez pas que ces plateformes, quand bien même vous avez le sentiment que c'est des plateformes privées, toute vérité n'a pas forcément sa place, en tout cas sur Snapchat. C'est la fête des Pokémon, Guillaume. On a eu quelques petites annonces avec des Pokémon dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous détailler rapidement ce qui arrive du côté de chez Pokémon ?
Oui, alors bon, il y a eu Pokémon Home, déjà. Alors Pokémon Home, c'est quoi ? C'est un serveur qui permettra de partager les Pokémon entre plein de jeux, donc le Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, mais aussi le Pokémon Bank sur 3DS, dont j'ignorais l'existence totalement d'ailleurs, désolé. Et prochainement aussi Pokémon Go et Pokémon Shield and Sword. Bon.
Pokémon Go, ah oui, donc les plateformes qui vont rejoindre la plateforme d'échange, justement.
Enfin, de jeux qui vont exactement, là, du Pokémon
Ça
Home.
Ça fait un peu pencher aux infrastructures de Facebook qui veut unifier les messageries privées, Instagram, WhatsApp, etc. et Messenger. Voilà, c'est la même idée, c'est en gros, on unifie la façon dont on stocke nos Pokémon et dont on se les partage. Quoi.
C'est ça. Bon, après, il y a eu donc Pokémon Champions, c'est le pendant, la bagarre de Pokémon Go, puisque Pokémon Go, c'est quand même centré sur c'est centré sur la collection de Pokémon. Pokémon Champions, ce sera centré sur la bagarre entre Pokémon, donc vous pourrez faire des équipes de 3 et vous friter dans la rue, ce sera sûrement très rigolo.
Pokémon Masters, le nom ?
C'est pas Pokémon Champions ? Je dis n'importe quoi.
Je vois Pokémon Masters moi sur la news, mais c'est possible que ce soit Champions où il y a peut-être des noms.
Tu sais que non, mais c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est Pokémon où il y a la bagarre. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper.
C'est Pokémon bagarre.
C'est Pokémon bagarre. Exactement. Et donc après Pokémon bagarre, il y a Pokémon Sleep. Parce que qu'est-ce qu'on fait après la bagarre ?
L'accessoire de mode.
Exactement. Qu'est-ce qu'on fait après la bagarre ? On dort. Et c'est bien de bien dormir parce que bon voilà. Donc, Pokémon se préoccupe de votre santé après vous avoir forcé à vous lever le cul pour marcher dans la rue ou dans la campagne pour récupérer des Pokémon, ce qui est pas bon pour vous. Eh bien, il va faire en sorte que vous dormiez correctement 8 heures par nuit puisqu'il y a une nouvelle. C'est un nouvel accessoire. Ce sera le Pokémon Go +++. Oui, +++. Qui donc est une sorte de capteur d'activité, je suppose, et qui surveillera votre sommeil et qui permettra, si vous avez bien dormi, d'avoir des, récompenses à Pokémon, vous aurez un Ronflex super puissant, oui. Je sais pas du tout comment ça va marcher. C'est très rigolo.
On va gagner de la poussière, non ? Il n'y a pas des histoires de poussière qu'on peut collecter ?
Écoute, il y a des histoires de bonbons, de poussière, de poudre d'étoiles, il y a toujours c'est un truc beau. De ce type-là. Pokémon Sleep a beaucoup plu aux internautes sur Kotaku, un article de Kotaku regroupe un petit peu toutes les réactions à Pokémon Sleep. Il y en a de très 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 rigolotes, hein, dont certaines qui sont un petit peu inquiètes de savoir s'il y aura un leaderboard et des scores mondiaux, parce que je pense que le mec qui a gagné le leaderboard de score sera peut-être mort, justement, à force d'avoir trop dormi. Je sais pas exactement.
C'est possible.
Il y en a qui se demandent s'il y aura aussi Pokémon diététique et Pokémon régime, Pokémon planning familial. Bon, écoute, en tout cas, ça a bien fait rigoler les internautes. Je vous laisse regarder.
Pokémon texture de caca. Seulement si tu as la diarrhée ou pas, tu gagnes. Bon, je dérive. Tu sais, je suis toujours impressionné par la puissance de cette licence Pokémon au passage, puisqu'en ce moment, j'ai mon fils là qui maintenant c'est plutôt bien lire, qui découvre les joies du jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon. Jusque-là, il y avait plein de cartes qu'il collectionnait parce que sa cousine lui avait offertes et il trouvait ça cool de les avoir et il lisait, mais il connaissait pas le jeu. Et on a découvert un peu, et lui et moi, le jeu de cartes. C'est incroyable la puissance de cette licence qui transverse, qui j'arrive plus à parler, qui
transcende.
Qui transcende, merci, cherche le mot. Qui transcende les générations, c'est génial. Bon.
T'inquiète pas, moi je me suis vraiment planté, c'était bien Pokémon Masters, au fait. Hein. Tu as raison, c'était bien Pokémon Masters. Le jeu sur iOS et Android, oui, ce sera.
Moi, je l'appellerais toujours Pokémon Bagarre maintenant.
Exactement, ça lui va beaucoup mieux.
Le Samsung Galaxy Fold, bon, on n'a pas beaucoup de choses à en dire, mais il est encore repoussé, donc pas avant juillet. Je crois qu'ils prennent leur temps, hein, maintenant qu'ils savent que Huawei sera peut-être pas un concurrent de poids.
Ah, ça va mieux, là.
Les smartphones clients.
Ouais, Samsung, ils sont détendus, là.
Ils sont détendus, c'est cool. TikTok, qui proposerait autre chose que sa plateforme musicale adolescente avec un smartphone, Guillaume.
Mais oui, parce que pourquoi pas. TikTok, effectivement, les gens qui sont à tête de TikTok, ByteDance donc voudrait fabriquer leur propre smartphone avec TikTok dedans, mais pas que, et je ne comprends pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas, écoute, je sais plus, je sais, le monde part en vrille, je comprends plus. D'ailleurs, on n'a pas d'infos supplémentaires, d'ailleurs, c'est aussi...
L'explication pourquoi pas est très valable. Défibrillateur activé. Apple a donné un coup de lifting, en tout cas derrière le capot de l'iPod Touch. Donc il y a une mise à jour avec la puce à diffusion et plus de stockage notamment. Donc en tout cas l'iPod Touch a été remis au goût du jour, mais garde quand même le design d'antan avec le bouton Home, donc pas Touch ID, avec tout ce qui faisait que l'iPod Touch ressemblait à un iPhone 5 un peu plus coloré. En fait, j'ai eu envie de sourire parce que il y a quand même ce côté mise à jour de l'iPod Touch qui fait se demander mais pourquoi est-ce qu'ils font cette démarche-là. On pensait même pas qu'ils en vendaient vraiment beaucoup. De fait, je suis tombé sur un article qui décrit tous les cas d'usage qui sont pas idiots en fait pour ce type d'appareil. Est-ce que finalement c'est pas plus intéressant d'équiper un enfant de ça plutôt que d'un smartphone qui serait détourné de son usage ou de certaines consoles, surtout avec les services de jeux avec Apple Arcade là, qui devrait arriver. Il y a plein d'usages, sans doute en entreprise, où il n'y a pas besoin d'équiper les employés avec des smartphones qui nécessitent un abonnement. Et du coup, ça remplirait peut-être pas mal d'usages. Ça reste un outil, pourquoi pas, assez sympa quand on a pris le pli de faire de la domotique et de la maison connectée chez soi, surtout si c'est dans l'écosystème Apple. On peut un peu partager cet appareil à la manière d'une super télécommande, ça reste un super dispositif d'écoute de musique. Et puis, il y a aussi le cas des développeurs qui, quand ils développent une application, s'appuient sur l'émulateur qui est intégré à Xcode, l'environnement de développement d'Apple, pour tester les applications sur iOS. Mais si tu veux vraiment tester le comportement de ton app sur une machine qui représente un petit peu l'usage qu'il pourrait y avoir pour le grand public, bah, ils sont un peu obligés de dédier un iPhone à ça. Ah, l'iPod Touch est un bon palliatif. Alors pour toi, Guillaume, iPod Touch remis au goût du jour, bonne idée, mauvaise idée, on s'en fout?
Non, mais c'est une très bonne. Enfin, c'est très bien, mais ça fait longtemps qu'ils auraient dû le faire. D'ailleurs, ouais. Bah, tu sais que, bon, enfin, déjà, ma femme a longtemps utilisé un iPod Touch ancienne mode, hein, en plus d'un téléphone mobile bas de gamme comme ordinateur personnel. C'est-à-dire, c'était la fonction smartphone était déportée, quoi, si tu veux, et ça marchait pas si mal que ça, en fait. Hein, c'était pas mal. Parce que les iPods sont quand même assez petits, ils répondent bien, enfin bon, c'est des produits de bonne qualité, quoi. Et puis surtout, c'est $200 le ticket d'entrée dans l'univers Apple. Et c'est de très 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 loin, je crois, la machine la moins chère de tout le catalogue.
Oui, je sais plus à combien est l'iPad mini, pardon.
Le 32 Go, l'iPod Touch 32 Go, je crois que c'est à $200. Et pour $200, tu peux avoir donc accès à toutes les applis et puis aussi tous les jeux, effectivement. Et comme tu disais, avec Apple Arcade, oui, ça fait baisser le prix du ticket d'entrée, quoi.
Ouais, il y a le FaceTime, il y a évidemment toutes les apps de messagerie avec lesquelles on va pouvoir faire de la visio. Bien joué, ok, ça achève de convaincre. On parlait de deepfake tout à l'heure avec Nancy Pelosi, enfin qui n'était pas du coup des vidéos de deepfake, mais on mentionnait la technologie, cette technologie qui permet de remplacer un visage par un autre dans des vidéos de manière très convaincante. Là, on a quelque chose d'un peu dérangeant, mais en même temps très très intéressant, c'est du deepfake de personnages historiques, Guillaume.
Oui, c'est presque du deepfake de personnages historiques, puisque c'est Mona Lisa qui peut te parler, ou Einstein qui peut te parler. Et ce qui est fou, c'est que ce sont des vidéos donc de têtes qui parlent, comme ça, qui sont générées donc avec, en fait, une seule image, puisque évidemment, des photos, des portraits de Mona Lisa, jusqu'à présent, on n'en a qu'un. Et donc, forcément, il faut se débrouiller avec. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment, c'est assez, bon, ça commence à devenir assez compliqué, mais bon, c'est toujours un peu le même principe. Il y a des algorithmes de deep learning qui sont entraînés sur des vidéos de gens qui parlent, mais genre vraiment beaucoup. Et puis, ces vidéos, en fait, elles sont augmentées de, des caractéristiques du visage. Donc, les yeux, la position des yeux, du nez, de la bouche et de la forme de l'ovale du visage. Donc, en fait, il y a un autre réseau finalement qui s'occupe d'extraire ces informations-là, et donc le réseau en fait qui va produire ces deepfakes, lui, il s'entraîne sur des têtes qui parlent et de en gros associer les visages aux caractéristiques du visage qui bouge. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'il a compris comment ça fonctionne, et ben vous lui donnez une image donc cible. Cette image cible, ça va être par exemple le portrait de Mona Lisa. Vous lui donnez une vidéo source dans laquelle, je sais pas, c'est vous qui parlez. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder votre vidéo source, il va en extraire les caractéristiques les caractéristiques donc de votre visage, il va les appliquer sur la tête de Mona Lisa qui va parler comme vous. Et ça fonctionne incroyablement bien. Alors, s'il y a qu'une seule image, dans le cas de Mona Lisa, ou de Einstein, ou des portraits historiques, c'est pas parfait, on voit les petits problèmes, mais par contre, si vous prenez 8 ou 16 selfies de vous, et que vous appliquez le même traitement, le nombre de défauts devient vraiment très très faible, ce qui fait que on peut dire que globalement, on peut faire parler n'importe qui, avec n'importe qui peut faire parler n'importe qui d'autre, c'est-à-dire si tu veux prendre à la tête de Trump, dont il existe des milliers de photos, évidemment, sous tous les angles, et que tu veux lui faire dire quelque chose, ce sera vraiment très très bon. Il y a une vidéo explicative, de toute façon, dans les liens, allez voir, c'est vraiment très impressionnant.
Ouais, très très impressionnant, effectivement, et c'est toujours un peu magique de s'imaginer. Ça la rend plus crédible, en fait, je trouve.
Plus humaine, tout simplement.
Plus humaine, ouais, c'est impressionnant. Ford, qui propose un robot livreur, Guillaume, c'est l'avenir?
J'espère pas. J'en sais rien. Écoute, je sais plus si c'est vraiment bien ou pas, mais disons que dans une vidéo, Ford propose un avenir où la voiture de livraison serait donc autonome. Mais évidemment, il faut quand même transporter votre truc. Donc du coup, dedans, il y a une espèce de robot qui se plie, qui sort du coffre et qui prend avec ses deux moignons, parce qu'il a vraiment deux espèces de boules moignons, il prend votre colis et puis il vous le met devant la porte et il s'en va. Et puis si vous êtes là, il peut vous faire un petit check comme ça avec le poing, avec cette espèce de moignon là. Et voilà. Alors du coup, c'est assez intéressant parce que ça résout ce fameux problème, ça automatise ce last mile, c'est le problème du dernier kilomètre là, d'une manière qui est ultra ultra moderne. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est techniquement faisable tout de suite, ou est-ce que ce sera juste le cas dans 10 ans? Je sais pas. Mais pourquoi pas? C'est une possibilité.
Je vois pas trop l'intérêt, en fait.
Remplacer les gens.
Oui, enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans la vidéo, il y a quand même des gens qui préparent le colis.
C'est pour faire bien, parce que si t'es comme Amazon, des gens, il n'y a plus besoin du tout. À un moment donné, il n'y a plus besoin du tout.
Un peu flippant quand même, quand tu regardes la vidéo sur l'article d'Engaged. Il parle de manière lovecraftienne de présenter les choses. Je vois ce qu'ils veulent dire quelque part. On verra ce que ça donne. Amazon est complètement décomplexé sur la reconnaissance faciale, ou en tout cas concrètement les instructions qui ont été transmises aux actionnaires Concernant justement les orientations en termes de reconnaissance faciale ont été suivies, donc bah, tout simplement beaucoup moins de contraintes en tout cas pour l'utilisation des technologies qui, on l'a dit dans le dernier épisode de Tech Café, s'est vu banni de San Francisco pour les usages publics sur le territoire. Donc on sent que c'est un enjeu qui crisse un petit peu les visions de les différentes opinions. Et puis bah aussi une décision de la part de, qui est approuvée par les actionnaires de ne pas avoir trop de comptes à rendre sur les aspects lutte contre le changement climatique et notamment l'utilisation des combustibles fossiles de la part d'Amazon sur lesquels on n'a pas de rapport, on aimerait plus de détails et bah, a priori il y a eu un blanc-seing sur le fait de ne pas communiquer à ce sujet-là. Bon, c'est un peu dommage, je trouve que ça entache un petit peu l'image d'Amazon non, sur des aspects qui pourraient être beaucoup plus positifs.
Non, c'est surtout qu'il y avait des gauchos dans le board, je veux dire, il y avait des cellules d'actionnaires qui étaient comme ça hippies, complètement hippies, qui voulaient, tu te rends compte, voter une motion comme quoi il faudrait contrôler la reconnaissance faciale, limiter l'impact sur le réchauffement climatique, mais ça va pas, nous. Donc évidemment, tout ça a été rejeté, faut pas déconner non plus.
Ouais, ouais. C'est, en fait, ce qui est un peu dommage dans l'approche, alors, enfin... Moi, ce qui me déroute, c'est que ça pourrait être des arguments hyper positifs, quoi. Qu'on aime ou pas Apple, je pense qu'il y a un aveu positif par rapport à leur position sur le climat, sur la confidentialité. Même s'il y a une interprétation un peu bullshit du truc, même si on se rend compte que d'autres le font aussi pas mal, tous les points de vue sont tout à fait audibles. Mais il y a quand même quelque chose de positif, bien plus positif que de ne rien dire, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave. Des outils de la NSA qui auraient permis l'attaque sur des villes américaines, Guillaume.
Ouais, il y a plusieurs villes américaines, comme Baltimore par exemple, qui sont fait attaquer par des ransomware. Et ces ransomware, ils ont un point commun, c'est qu'ils utilisent donc une faille de Windows. Et cette faille de Windows, elle s'appelle Eternal Blue. Et c'est une faille qui avait
Eternal
été...
Blue.
Je crois que c'est Eternal Blue, ouais. Eternal Blue, qui donc était une faille que la NSA connaissait, qu'elle avait gardée secrète pendant longtemps, qu'elle avait divulguée sur le tard et que Windows avait patché aussi sur le tard. En fait, tellement sur le tard que, bien entendu, comme d'habitude, il y a plein d'organisations, plein de gens et plein d'administrations qui n'ont pas fait de mise à jour et qui donc sont restées vulnérables. Du coup, ben oui, c'est un retour de flamme, c'est-à-dire que on avait déjà dit que c'est pas une bonne idée que les services secrets comme ça accumulent secrètement les failles, parce que évidemment ça retarde la publication des trucs de sécurité et évidemment ça peut vous revenir dans la tête. Tout simplement.
Un petit mot sur les charges criminelles contre Julian Assange, Guillaume.
Oui, alors comme il y en a 17, parce que le pauvre, il a été accusé de 17 nouvelles charges criminelles, on va certainement pas les passer en revue et en détail, juste pour dire que donc bah, c'est clairement pas fini, et que bah, ça pose de grosses questions en fait sur le premier amendement, mais aussi sur la nature journalistique ou pas de WikiLeaks et s'il devrait être protégé ou pas comme journaliste. Bon, voilà, c'est toujours un petit peu le même problème, mais ouais, comme on disait, tout ça ne fait que commencer, quoi.
Sur le document source du département de la justice des États-Unis, j'en vois même 18. Donc, bon, je sais pas s'il y a une subtilité. Bon,
la semaine prochaine, il y en aura 21, t'inquiète pas.
peut-être ça va augmenter. Le balai des Starlinks, est-ce que t'as vu cette vidéo, Guillaume?
Oui, c'est assez impressionnant. Ouais. C'est pas du tout impressionnant parce qu'en fait, c'est une vidéo noire où vous avez 60 ouais. petits points qui se baladent donc, sur une ligne droite. Donc, c'est pas du tout impressionnant. Mais il faut imaginer que tout ça, c'est 60 satellites quand même qui sont déployés à la fois. Et bien entendu, bon, nous, ça nous impressionne, mais ça impressionne modérément les astronomes qui s'inquiètent un petit peu de voir cette nouvelle pollution lumineuse arriver, d'autant plus que c'est le début, puisqu'on sait que c'est des dizaines de milliers de nouveaux satellites qui sont prévus d'être lancés à la fois par SpaceX ou par d'autres entreprises qui ont un petit peu les mêmes idées, quoi.
Ouais, ils disent que a priori ça pourrait tripler le nombre de satellites qui entourent notre planète. Pour les astronomes, ils considèrent que c'est pas vraiment un souci en fait quand on creuse avec eux. Ils disent qu'ils ont pas les mêmes champs d'observation et puis qu'ils ont l'habitude de composer aujourd'hui avec les satellites où les images prennent compte hein, justement du passage de ces éléments artificiels. Donc bon, je sais pas si dans les faits ça va vraiment les embêter. Je pense que c'est plus la dérive qu'il peut y avoir derrière. Et puis quelque part l'enjeu philosophique aussi qu'il y a de balancer tout ça autour de notre planète. Je crois que la durée de vie des Starlink, j'ai cru voir quelque part, ça me semblait dingue, qu'elle était seulement de 5 ans par petit Starlink.
Mais
je
ouais,
sais pas
tombe.
Si c'est vrai.
Non, si, ouais, bah, c'est des trucs en orbite basse, donc ils doivent se maintenir.
Court, en fait. Ouais.
Bah, je crois qu'ils doivent, comme ils sont en orbite basse, ils doivent se maintenir à leur orbite en permanence. Et donc je suppose que quand ils ont plus de carburant, bah, ils tombent.
Tout simplement, et il se désintègre dans l'atmosphère, parce que c'est pas bien gros, hein, de toute façon. Allez, on suivra Starlink, l'avancée de la connexion avec les satellites. En attendant, on passe à la rubrique bonus. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour ce 132e épisode de Tech Café?
Alors, en bonus, j'ai un truc extrêmement, extrêmement geek, évidemment, puisque c'est un documentaire YouTube qui a été produit par My Life in Gaming, qui est une chaîne YouTube qui est spécialisée un petit peu dans le jeux vidéo évidemment, mais rétro aussi. C'est un documentaire sur M2, qui est une boîte japonaise assez connue, qui regroupe des programmeurs extrêmement talentueux, donc et qui ont comme spécialité de faire des portages de vieux jeux sur les plateformes récentes. Alors on les connaît par exemple très récemment pour avoir fait les 3D Classics sur 3DS. Donc par exemple ils sont sortis sur cartouche, donc j'ai la cartouche, mais il y a aussi des trucs, plein de trucs qui sont sortis en dématérialisé. Donc il y a Angon, il y a par exemple il y a Angon, Outrun, Afterburner, etc. Et donc ils ont la particularité de faire ça avec un souci du détail et un perfectionnisme vraiment extrême. Et le truc, c'est que ce qui est vraiment intéressant, c'est que le documentaire est assez long. Et il te montre à quel point c'est assez compliqué à faire en réalité, et à quel point ces mecs sont vraiment des fondus, parce qu'ils reproduisent absolument tout dans leurs moindres détails, et souvent ils vont au-delà en rajoutant des fonctionnalités qu'il n'y avait pas à l'époque. Et tu le vois d'ailleurs hein, sur 3DS dans les 3D classiques là. C'est vraiment incroyable, ils ont rajouté donc la possibilité de changer le niveau de difficulté, la possibilité de tweaker un petit peu le gameplay, ils ont rajouté des modes écran large tout simplement, ils ont rajouté la possibilité de faire de la 3D stéréoscopique, donc le jeu est vraiment en relief. Ils ont développé un émulateur qui reproduit la Giga Drive, donc c'est une Mega Drive mais avec des capacités supplémentaires. Qui est rétro-compatible et sur laquelle ils développent comme ça ces trucs. C'est, voilà, c'est vraiment intéressant pour évidemment ceux qui sont intéressés par ce genre de détails. Si vous n'êtes pas intéressé, je peux vous, et comme on parle de deepfake, je peux aussi vous recommander la chaîne qui s'appelle Control Shift Face, qui ne regroupe que pour l'instant 3 vidéos, mais qui est vraiment bluffante parce que c'est un mec qui s'amuse à prendre des extraits de films.
Ouais, on voit
ça. Ah, pardon, bah oui, donc voilà, donc c'est parce que.
Ah, ça n'arrête plus.
Oui, mais il y en a, c'est parfois, oui, mais parfois c'est le même film. Ça paraît que ce soit le même film. En tous les cas, il prend des extraits de films et il fait des morphings de visage en temps réel. Donc, par exemple, il prend le Fight Club et donc dans une scène où il y a Edward Norton, en fait, à un moment donné, il change son visage avec un deepfake, il change son visage en celui de Brad Pitt. L'effet est tellement seamless que, en fait, vous vous en rendez pas compte. Et il y a un autre truc où il y a un comique américain qui est donc accueille un late show et il imite donc diverses personnalités et son visage se change de manière extrêmement subtile en les personnalités en question, par exemple Arnold Schwarzenegger. Et encore une fois, c'est tellement subtil et c'est tellement naturel que ça fait peur. vous pourrez essayer, c'est très intéressant.
Dérangeant, quoi.
Tout à fait.
Bon, bah écoute, j'irai regarder ça. Alors, dans la famille des trucs dérangeants, moi, ça va aussi me permettre de rebondir sur mon bonus. Je crois pas que j'en avais parlé, hein, Guillaume, avant, et pourtant, ça fait un bon moment que j'avais commencé cette série que j'ai terminée ces derniers jours. Je me suis autorisé quelques moments de répit pour terminer le 8e épisode de cette saison 1 de cette série. Alors, je suis pas certain qu'il y aura d'autres saisons. Et c'est ce qui est génial aussi dans cette série, c'est que On a le sentiment quand on arrive à la fin qu'on l'a bouclé, mais qu'en même temps il y a quelques éléments qui pourraient permettre de, d'être creusés dans d'autres saisons. Qu'est-ce que raconte cette série ? Donc Il Miracolo, qui est une série italienne, dépeint le portrait de plusieurs Italiens qui sont dans un monde de nos jours, hein, tout à fait normal, mais sur un fond politique assez spécial, puisque ils sont en train de voter en Italie dans cette série l'Italixit, je sais pas comment le dire, mais le Brexit italien. Donc il y a un référendum et les Italiens sont amenés à se prononcer sur le fait que l'Italie puisse quitter ou pas l'Union européenne. On suit plusieurs personnages, dont le Premier ministre, et cette toile de fond est ponctuée par l'arrivée dès le début de la série par une statuette de la Vierge Marie qui pleure des larmes de sang. Et je m'arrête ici pour pas vous en décrire beaucoup plus dans l'intrigue, mais on comprend que au-delà de l'élément central qui est cette statuette qui pleure des larmes de sang, c'est aussi tout un prétexte pour voir toutes les imbrications qu'il peut y avoir dans les portraits qui ont été mis en scène dans la série. J'ai trouvé ça captivant. Hyper bien fait. C'est une série qui, telle qu'on l'a décrit, et quand on sait en plus qu'elle a été produite coproduite par Arte, bah on se dit oulala, c'est quoi cette espèce d'ovni. Écoute, c'est génial, c'est très dérangeant, très captivant aussi, avec des cliffhangers absolument magistraux qui moi m'empêchaient de quitter l'épisode suivant. Je vous invite à regarder, ça se regarde assez vite. Il y a 8 épisodes d'environ 50 minutes chacun, et c'est vraiment une chouette expérience. Et en plus, ça change de voir un peu de créativité dans les séries qui n'émanent pas de séries américaines. On a vu déjà des séries espagnoles cartonnées. Là, c'est un chouette exemple de ce qui peut être fait en Italie. Est-ce que tu as vu Il Miracolo, Guillaume ?
Mais pas du tout, mais pourquoi pas ?
À regarder, je te le conseille. Merci beaucoup, Guillaume, pour toute la préparation de ce conducteur de l'émission, pour ta participation à cet épisode de Tech Café. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, Guillaume ?
Peut-être sur Telegram, mais c'est vrai que là, ces deux prochaines semaines, je ne vais pas être très très disponible. Désolé.
Merci beaucoup Guillaume, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur mon compte Twitter, mon compte Instagram où je mets aussi des stories de temps en temps, et puis évidemment sur Telegram où malheureusement j'arrive pas à suivre tous les nombreux échanges qu'il peut y avoir. Je les suis tous mais pas en live, j'arrive pas à tous les suivre en live, j'avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué de dimensionner du temps, mais je prends beaucoup de plaisir à tout suivre, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci beaucoup pour nous écouter épisode après épisode, on compte sur vous évidemment de manière incontournable en partageant Tech Café à votre entourage, en le partageant sur les réseaux sociaux et en allant déposer, si vous ne l'avez pas déjà fait, une petite évaluation sur Apple Podcast, où vous pouvez déposer quelques étoiles et dire ce que vous pensez de Tech Café. C'est visible publiquement et ça permet aux autres de découvrir l'émission, donc évidemment, je vous y encourage. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous.